Donc, évidemment, monsieur le directeur m'a présenté, merci de votre accueil. Je fais cette conférence un peu partout en France, dans les lycées. Et quand je fais cette conférence, je demande toujours trois permissions à ceux et celles à qui je vais m'adresser. La première permission, d'abord, c'est de vous parler avec franchise. Pourquoi ? Parce que je pense que ce sujet de la vie affective, de la sexualité, de l'amour, c'est le sujet par excellence sur lequel on a envie d'avoir une parole vraie, une parole directe, une parole qui n'hésite pas, une parole qui est franche. Et je me souviendrai toujours de cet étudiant qui avait 20 ans à l'époque, qui était en école de commerce. Je pense que dans le domaine de la vie affective, ce brave garçon avait à peu près tout fait, tout essayé. Et à la fin d'une conférence comme celle-ci, il vient me voir et il me dit « Mon père, pendant 6 ans, j'étais dans un bahut catho. Pourquoi on m'a jamais dit ça avant ? Ça m'aurait tellement évité de me blesser et d'en blesser un certain nombre. » Et vous voyez, c'est ça qui fait flipper le cœur du prêtre que je suis. C'est que de croiser un jour un jeune qui me dise « Mon père, je vous ai eu comme aumônier, je vous ai eu comme curé, je vous ai eu comme conférencier. Je me suis planté parce que quand vous m'avez croisé, vous n'avez pas osé être vrai avec moi. Alors je vais être vrai avec vous, d'autant plus que je vous crois capable, en terminale, en première pour certains, d'avoir cette maturité, d'écouter tout en restant libre. Je ne viens pas vous plaquer des idées toutes faites qu'il faudrait suivre bêtement. Je viens vous dire librement ce que le cœur d'un prêtre a envie de vous dire sur ce sujet-là, en essayant de dépasser les caricatures habituelles. Et le but ensuite, c'est que librement, par vous-même, loin du regard des autres, ou avec vos amis, ou avec ceux qui vous accompagnent ici, vous puissiez décider ce que vous garderez de tout ça. Il y a des choses avec lesquelles vous ne serez pas tout à fait d'accord, et les choses avec d'autres qui vous adhèrent, vous allez adhérer, eh bien c'est votre liberté. Mais je viens vous parler librement parce qu'en même temps, je vous laisse libre. La deuxième permission, c'est éventuellement de vous demander pardon. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette conférence, il faudrait plutôt la voir sous la forme d'une discussion personnelle avec chacun d'entre vous. Et vous êtes trop nombreux pour ça, et je ne veux pas être trop long non plus, mais du coup, forcément, vous allez trouver qu'à certains moments, dans ce que je dis, je suis trop rapide. Il faudrait affiner, il faudrait ajuster, il faudrait personnaliser, il ne faudrait pas autant généraliser. Et vous avez raison, c'est toute la limite de ce genre de grande conférence. Pardon aussi si vous aviez l'impression que je vous juge. Pourquoi ? Parce que ce que je vais dire vient percuter ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. En aucun cas, c'est mon intention. Personne ne connaît le secret de votre cœur. Seul Dieu peut vous juger. Mais moi, je ne viens pas vous juger, je viens vous donner des critères de discernement. Non pas sur ce que vous êtes, mais sur ce que vous faites. Qu'est-ce qui peut me construire ? Qu'est-ce qui peut me blesser ? Mais heureusement qu'on ne réduit jamais quelqu'un à ce qu'il a fait. On vaut toujours mieux que ce qu'on fait. Donc pardon si vous aviez cette impression de jugement, ce n'est pas mon intention. Et puis enfin, c'est évident pour des lycéens, mais je le dis quand même, c'est le sujet par excellence sur lequel on a besoin d'avoir une certaine maturité en face. Donc je vous fais confiance pour écouter vraiment, sans que je m'arrête pour faire le flic. Et surtout que maintenant je vous vois bien. Et puis ensuite on prend une petite pause, si on a le temps. Et puis on vous donnera l'occasion de poser vos questions ou de réagir ensuite. Alors, cette conférence, je la tire de ce petit bouquin, ou plutôt le petit bouquin, je l'ai tiré de la conférence, et mais en vérité, peut-être que ce petit bouquin, certains l'ont déjà lu, mais il semble que c'est assez complémentaire d'écouter et de lire. Voilà. Vous allez retrouver certaines choses, mais c'est assez précieux. Ce qui me paraît évident, c'est que quand on est prêtre et qu'on arrive devant 300 lycéens pour parler d'amour et de sexualité, la première chose à faire, c'est de casser les idées reçues, ou plutôt les a priori négatifs qui traînent dans la tête de beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas comment vous avez appris cette conférence, je ne sais pas si vous le saviez avant ou si vous avez... En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que quand vous avez compris qu'un prêtre venait vous parler de vie affective et de sexualité, je pense que 90% d'entre vous ont soupiré, au moins intérieurement, en se disant « il va encore nous dire de ne pas coucher avant le mariage ». Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, on ne couche pas avant le mariage. Mais vous voyez, cette première réaction un peu instinctive que beaucoup ont peut-être eu dans leur esprit, est tellement révélatrice de cet a priori négatif qui traîne dans la tête de beaucoup d'entre nous, y compris des plus cathos parmi nous. L'a priori selon lequel la seule chose que l'Église aurait à me proposer dans le domaine de la vie affective, c'est une longue liste de péchés à pas faire. Comme si tout le message de l'Église se réduisait dans ce domaine à une longue liste d'interdits à respecter. Ça c'est péché, ça t'as le droit, ça c'est péché, etc. Comme si en fait l'Église, sur le sujet, était sur la défensive. et qu'elle avait peur de votre désir d'aimer et d'être aimé. Et donc, comme si son seul but, c'était de vous cadrer, voire de vous empêcher d'aimer. Ça se voit même à la tête de ceux qui viennent me voir. S'ils viennent me voir, c'est souvent qu'ils me font confiance. Et pourtant, quand ils rentrent dans mon bureau pour me dire qu'elles sont ou qu'ils sont amoureux, amoureuses, ça se voit rien qu'à leur tête qu'inconsciemment, ils s'attendent à s'en prendre une. Voyez, ils viennent voir un prêtre pour parler de ça, ils se disent inconsciemment que la seule chose que le prêtre va pouvoir faire, c'est dire « attention au péché, va pas trop loin », etc. Comme si vraiment l'Église là-dessus avait peur de votre désir d'aimer, de votre capacité à vous donner. En fait, c'est tout le contraire. Quand un jeune me dit « je suis amoureux, je suis amoureuse », ma première réaction, c'est de dire « c'est génial ». C'est génial parce que t'es fait pour ça. C'est-à-dire que je crois profondément que cette capacité d'aimer que vous avez tous en vous, c'est ce qu'il y a de plus beau en vous. C'est ce que Dieu a mis de plus beau en vous. Et donc le premier regard que Dieu pose dessus, que l'Église pose dessus, que je pose dessus, c'est un regard profondément positif, profondément émerveillé. C'est d'abord beau. La preuve, ouvrez votre Bible au moins les trois premières pages, Dieu fit l'homme pour la femme pour l'homme, ensemble ils ne feront plus qu'un, je ne fais pas une projection, et Dieu vit que cela était bon. Il n'y a pas marqué Dieu a rougi, Dieu a trouvé ça sale, Dieu était gêné, Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire que le premier regard qu'il nous faut poser, que nous posons sur votre désir d'aimer, c'est un regard éminemment positif. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'entre amis ou que dans nos familles, on en parle d'abord comme un sujet grand et beau, comme quelque chose de grand et de beau, voyez, et pas comme quelque chose de tabou, de gênant. Et en même temps, parce que l'Église vous aime et qu'elle vous aime trop pour vous mentir, elle vous dit, cette capacité d'aimer que tu as en toi, c'est ce qu'il y a de plus beau en toi, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus fragile. La preuve, c'est que c'est là-dessus que tu pourras être le plus heureux du monde, la plus heureuse du monde, rendre quelqu'un le plus heureux, la plus heureuse du monde, mais c'est aussi là-dessus, et certains le savent déjà, que tu pourras le plus te blesser ou le plus blesser quelqu'un d'autre. Et donc tout l'enjeu du message de l'Église, c'est pas de vous interdire d'aimer, ce serait absurde, vous êtes fait pour ça. Tout l'enjeu du message de l'Église, quand on accepte de dépasser les caricatures, c'est au contraire de vous encourager, de mettre en valeur cette capacité d'aimer et en même temps de la protéger pour que ça soit un lieu de joie vraie et pas un lieu de blessure. Et c'est vraiment avec cet a priori positif qu'il faut entendre tout le reste. Sinon, on ne comprend rien. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Église est très exigeante. C'est vrai. Mais cette exigence, elle est insupportable et intenable si je n'ai pas d'abord compris la joie au service de laquelle elle m'est proposée. C'est cette joie-là, cette joie d'aimer, qui donne du sens à cette exigence d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais simplement vous partager quelques intuitions concrètes que je retire de ces 14 années de prêtrise au service des étudiants ou des lycéens. Et puis, le but, encore une fois, c'est que par vous-même, librement, vous déciderez de ce que vous garderez de tout ça. Et puis, vous en ferez vos propres intuitions, vos propres convictions. Voyez. Mais voilà, toujours avec cet a priori positif qu'il faut en arrière-fond. Ma première intuition, si vous voulez apprendre à aimer, vous préparer à aimer, c'est qu'il va falloir très vite faire la distinction entre sincérité et vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes assez honnête intellectuellement. Vous reconnaissez que le plan d'un soir, c'est assez pauvre en termes relationnels. Ça ne vous empêche pas de le faire, mais enfin, vous reconnaissez que se réveiller à côté de quelqu'un dont on ne connaît pas le prénom, c'est assez limité. Bon. Maintenant, toutes les semaines, je reçois des jeunes qui me disent « Mon père, ok pour pas être sale, ok pour pas jouer, ou en tout cas, si on le fait, on comprend bien les limites. Mais pourquoi là on ne pourrait pas sortir ensemble dès maintenant? Pourquoi on ne pourrait pas coucher ensemble dès maintenant? Puisqu'on est sincère. Sous-entendu, il suffirait d'être sincère pour que ça marche et pour que ça soit bien. Sauf que toutes les semaines, j'ai des jeunes les larmes aux yeux qui viennent me voir en me disant « Mon père, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi c'est si difficile ?» Alors que j'étais sincère. En fait, on peut sincèrement se planter, voyez-vous. Et c'est ça qui fait mal d'ailleurs, parce qu'on était sincère. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la distinction qu'il y avait entre sincérité et vérité. Entre être amoureux sincèrement et aimer vraiment. Je redonne dans le livre quelques exemples que j'ai. C'est pas des exemples que j'invente, c'est des exemples que je généralise par discrétion, mais des histoires vraies. De cet étudiant qui vient me voir un jour, garçon de 19 ans, il vient me voir un mois après avoir participé dans mon groupe au JMJ. Vous avez tous entendu parler de ce truc-là, les Journées Mondiales de la Jeunesse, quand le pape rassemble autour de lui, tous les 2-3 ans, pendant l'été, 2-3 millions de jeunes. C'est impressionnant. Vous imaginez bien qu'en termes de vie affective, les JMJ, c'est un peu compliqué quand même. Hein, quand vous mettez 2 millions de jeunes au même endroit, au même instant, pendant 10 jours d'été, ils font pas que prier, vous voyez. Certains prient un peu quand même. Ce brave garçon n'avait pas fait que prier. Et il vient me voir un mois après en me disant « Mon père, je suis en train de vivre une histoire formidable, elle est géniale, machin, etc. Faut que je vous en parle. Ma première réaction, je vous l'ai promise, c'est de dire, c'est génial. Un garçon amoureux, une fille amoureuse, quel que soit l'âge, c'est d'abord beau. Deuxième réaction, raconte-moi quand même. Tu la connais depuis quand? Depuis cet été, mon père, depuis les JMJ. Mais tu sors déjà avec elle, depuis quand? Depuis cet été, mon père, je l'ai dit, depuis les JMJ. Les JMJ, ça dure 10 jours. Je dis, c'est assez rapide comme choix. Comment tu sais que c'est elle? Pourquoi tu sais que tu l'aimes? Comment tu sais que tu l'aimes? Et le garçon, hyper sincère, me raconte, ben voilà, on était en deux groupes d'amis différents, on se retrouve dans le même quart. On a fait connaissance, très vite on a senti que le courant passait bien, on a bien accroché, on a beaucoup parlé, de plus en plus tardivement, longuement, on s'est rapproché, de plus en plus proche, tout au long des 10 jours. Et ça s'est fait le dernier soir pendant la veillée avec le pape. Je dis pardon. La veillée avec le pape, c'est effectivement le dernier soir. Le pape, les 2 millions de jeunes sont au même endroit sur un aéroport, c'est impressionnant. On attend le pape pendant 10 heures sous un soleil de plomb. Quand il arrive, c'est juste le délire. Très bien, il traverse tout le monde avec sa papa mobile. Et ensuite commence la séquence émotion. La veillée de prière commence. La nuit est tombée. Chaque jeune a un petit lumignon dans la main. Ça fait 2 millions de petits lumignons dans la nuit chaude de l'été. Une sorte d'ambiance assez chaleureuse, voire chaude. Et le brave garçon me dit, on était côte à côte pendant toute la veillée de prière. C'était très fort dans mon cœur. Ça battait très fort. J'ai jamais prié comme ça, me dit-il. Tu m'étonnes. Et à la fin de la veillée de prière, je l'ai chopé. J'ai dit pardon. Si la prière fait cet effet, arrête de prier, mon vieux. Sincérité 100%. Il l'a pas chopé comme un gros sale juste pour un soir, comme vous faites en soirée. Sincérité 100%. Mais discernement, zéro. C'était chaud dans mon cœur, ça faisait poète, enfin, discernement, zéro. C'est-à-dire que ce garçon n'avait pas compris la différence, en fait, entre le désir amoureux, je suis amoureux, et je suis prêt à aimer. J'aime. Vous allez me dire, c'est le béaba. Je peux vous promettre que les 3/4 des fiancés que je prépare au mariage n'ont pas compris ça. Donc ça vaut la peine de le comprendre dès maintenant. Être amoureux, c'est quoi? C'est de l'ordre du ressenti. Je ressens sincèrement une attirance pour quelqu'un. C'est très beau. Reconnaissez juste quelques petites choses. D'abord, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas complètement libre. On décide pas exactement de qui on tombe amoureux, ni quand est-ce qu'on tombe amoureux. C'est tout ce qui fait le charme de ce sentiment. Il y a un côté un peu mystérieux, parce que c'est lui, parce que c'est elle. On maîtrise pas non plus exactement comment naît ce sentiment. Il peut naître soudainement, c'est le coup de foudre. On peut être sincèrement amoureux au bout d'une heure de soirée, au bout de 5 jours de vacances. Ou alors c'est un sentiment qui peut éclore tout doucement tout au long d'une année. On maîtrise pas complètement non plus ce que devient ce sentiment. Vous maîtrisez pas exactement ce que vous ressentez. On peut être, moi je connais des jeunes de votre âge qui sont sincèrement amoureux tous les 6 mois d'un autre ou d'une autre. Et à chaque fois, c'est une sincérité désarmante avec laquelle ils disent « je ne ressens plus rien », on envoie le texto, et puis 3 mois plus tard, c'est on repart avec une autre. Et à chaque fois, ils sont sincères. On peut donc être sincèrement amoureux de plein de personnes dans sa vie, bien sûr. On peut reconnaître aussi que c'est un sentiment qui est parfois un peu mêlé. C'est autant le besoin d'être aimé que d'aimer. On a tous un besoin d'affection immense. Voyez. Et du coup, c'est souvent l'autre pour ce qu'il m'apporte et pas encore pour ce qu'il est que j'aime. Ou l'autre tel que je la rêve et pas encore tel qu'elle est que j'aime. Et tout ça, c'est normal. Ça montre simplement que le sentiment amoureux est une première étape. Voilà. On est encore loin de ce que veut dire aimer. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est pas ressentir. Aimer, c'est pas simplement désirer, même sincèrement. Aimer, c'est choisir. Aimer, c'est la volonté libre qui s'engage. Parmi toutes celles dont j'ai pu être amoureux, toutes celles dont je pourrais être amoureux, dont je suis amoureux, c'est toi que je choisis. La preuve, c'est que le jour du mariage, à la mairie ou à l'église, la question qui vous sera posée sera non pas « est-ce que tu la désires, est-ce que tu en peux plus ?» On imagine que c'est le cas. Mais la question qui vous sera posée, c'est « voulez-vous ?» Oui, je le veux. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, on ne maîtrise pas exactement ce qu'on ressent. Vous ne pourrez pas promettre à quelqu'un de ressentir ardemment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le même sentiment amoureux toute votre vie. C'est pas vrai. Bien sûr qu'on va tout faire dans un couple pour cultiver le désir amoureux, parce que ça aide à aimer. Mais même dans les couples qui vont bien, ce désir amoureux est quand même un peu fluctuant. Dire parfois il y a des creux. Demandez-leur. Quand vous rentrerez vous-même plus tard, quand vous serez mariés, du boulot, tous les deux, après une heure d'embouteillage, 3 dossiers sous le bras terminés, vous arrivez chez vous, le frigo est vide, personne n'a le temps de faire des courses. Votre gamin de 4e qui est con comme ses pieds vous présente un bulletin scolaire nullissime et votre belle-mère s'annonce avec 3 jours d'avance. À ce moment-là précis, demandez-leur, le désir amoureux est à zéro. Aucune envie de faire des galipettes ce soir. Juste de prendre la porte, voyez? Est-ce que pour autant vous cessez d'aimer? Non. Parce que aimer, c'est choisir d'aimer. Bien sûr que quand le désir, c'est pour ça qu'on cultive le désir, quand le désir nous porte, c'est plus facile. Mais même si un jour le désir était en creux, je peux encore choisir de t'aimer. Ça, c'est ma liberté. Je maîtrise pas complètement mon désir, mais je maîtrise ce que je veux choisir. Et c'est pour ça qu'on peut promettre fidélité. On promet pas de jamais ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre. On promet de vouloir t'aimer chaque jour, quoi que je ressente par ailleurs. Voyez, le jour du mariage, je dirais, je promets de choisir de t'aimer. Oui, je promets de vouloir t'aimer chaque jour. Et donc, on voit bien la différence qu'il y a entre être amoureux et aimer. On pouvait être amoureux au bout d'une heure de soirée, au bout de 5 jours de vacances. Si aimer, c'est choisir. Pour choisir, il faut connaître. Et pour connaître quelqu'un au point de la choisir, de le choisir, il faut du temps. Qui oserait dire qu'on connaît quelqu'un en 3 mois, en 6 mois, au point de le choisir, de la choisir? On pouvait être amoureux de plein de personnes dans sa vie. On pouvait être amoureux sincèrement 6 mois, 1 an, puis quelqu'un d'autre 1 an, 6 mois, etc. Mais si aimer, c'est choisir, dans le terme même de choisir, il y a la notion de durée, d'engagement. Ça ne veut pas dire qu'on se marie forcément avec le seul qu'on a aimé ou avec la première qu'on a aimée, peut-être pas, mais ça veut dire quand même que si j'utilise ce terme, il y a une perspective de durée. Personne choisit quelqu'un pour une durée déterminée. Ce serait de la location sinon, mais c'est violent, vous voyez. On pouvait être amoureux de l'image un peu idéale de l'autre, mais si j'aime, si je choisis, si je choisis l'autre tel qu'il est, non plus tel que je le rêve, donc y compris avec ses limites, avec ses fragilités, pour ce qu'elle est et pas simplement pour ce qu'elle m'apporte. Et donc il va falloir du temps pour passer de « je désire sincèrement » à « je choisis vraiment »,« je suis amoureux » à « j'aime ». Ce temps, c'est le temps du discernement. C'est qu'un désir, même sincère, a besoin d'être éprouvé, vérifié, mûri, discerné pour arriver à un choix capable de durer. C'est souvent ça qui manque. Je passe au concret. Pourquoi certains peuvent se blesser parfois? Quand est-ce qu'arrivent les blessures? Il me semble qu'elles arrivent quand vous êtes amené à poser des gestes ou des paroles, et pour moi les deux sont aussi importants, qui veulent dire « je t'aime » alors qu'en fait on est encore au mieux qu'amoureux. Dire « je t'aime » à quelqu'un, c'est génial, hein, c'est beau, c'est pas un péché, c'est très beau. C'est beau si c'est vrai, si je suis capable de porter ce que ces mots veulent dire. D'ailleurs, la première fois ou la prochaine fois que quelqu'un vous dira « je t'aime », remerciez-lui, remerciez-la, c'est très aimable de sa part. Mais faites-lui quand même préciser, qu'est-ce qu'il met derrière ces mots? Parce que vous ne pouvez pas prendre le risque d'être décalé l'un et l'autre sur le sens que vous donnez à ces mots. Ça veut dire quoi quand tu me dis « je t'aime » ? Ça veut dire que tu me désires, mais comme tu en as désiré d'autres avant moi, comme tu en désireras d'autres après moi. Ou ça veut dire que ça fait des mois et des mois que tu mûris, que tu éprouves, que tu discernes ce sentiment, et qu'aujourd'hui tu es prêt à me dire « je te choisis ». C'est pas du tout la même chose en tout cas. Embrasser quelqu'un, c'est pas un péché, bien sûr que non. C'est très beau, sortir avec quelqu'un, c'est pas un péché en soi, bien sûr que non. Il y a bien un moment donné où on va avancer à deux. C'est beau si c'est vrai. Ce geste-là, à moins qu'ils veulent déjà plus rien dire, mais c'est très très triste, ce geste-là, c'est déjà une promesse en soi. C'est un premier pas vers le don de soi. Ça appelle déjà à un don plus grand. Et donc c'est beau si effectivement dans mon cœur, je suis capable de me promettre. Vous allez me dire, mon brave père, vous êtes un peu naïf. Je ne sais pas comment ça se passe à Versailles, mais sachez qu'ici à Lille, ou à Marc, on se chope plus facilement que ça, on sort plus facilement que ça, on s'embrasse plus facilement que ça, et on couche plus facilement que ça. À Versailles aussi, je peux vous dire. Mais pourquoi je vous dis ça? Et c'est là où je vais être très franc. C'est le cœur du message. La question que vous pose l'Église, parce que l'Église, elle n'est pas naïve. Je sais pertinemment que le discours que je propose est à contre-courant absolument de la société. Je sais pertinemment ce que vivent la majorité d'entre vous. Mais pourquoi l'Église persiste à vous proposer ce message? En fait, la vraie question que vous pose l'Église, ce n'est pas une question de péché, pas péché, machin, jusqu'où tu as le droit d'aller. Tout ça, ça ne tient pas. La vraie question bien plus profonde, bien plus positive que l'Église vous pose, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu gardes de vrai, de grand et de beau pour celui ou celle que tu aimeras vraiment un jour? Si tu t'habitues aujourd'hui à poser trop facilement, trop souvent, ces gestes ou ces paroles, sans attendre qu'ils aient tout leur sens, sans attendre d'être capable de porter le sens qu'ils ont, si tu t'habitues à les poser trop facilement ou trop vite, sans attendre qu'ils aient toute leur vérité, tu risques de les appauvrir, ces gestes ou ces paroles. Et le jour où tu seras prêt pour aimer, tu seras pauvre de ça. Quand elle te dira, dis-moi, quand tu m'embrasses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'aime. Oui, mais alors, par rapport à la précédente, ça veut dire quoi? Ah non, ça n'a rien à voir, t'es la première que j'aime comme ça. Oui, mais ça aussi, tu le disais à la précédente par rapport à ce qui précédait. Ça fait 20 fois que tu dis ça, vous dira-t-elle. Comment tu veux que je puisse m'appuyer sur tes gestes et tes paroles pour à mon tour te faire confiance et m'engager si je sais qu'avant moi, si souvent, si facilement, tu as promis la même chose, tu as dit la même chose? Comment je peux savoir que c'est vrai maintenant? Oui. Je vous dis ça parce que beaucoup de jeunes me disent, mon père, rassurez-vous, à 25, 30 ans, on veut se marier, on veut être fidèle, on veut fonder une famille, etc. Vous inquiétez pas. Mais d'ici là, entre 15 et 25 ans, foutez-nous la paix, on a envie d'essayer, on a envie de s'amuser, c'est normal, c'est notre âge, comme on nous dit, faut qu'on fasse nos expériences. Sauf que j'entends ça, je comprends ça. Sauf que moi, je peux pas vous mentir. Vous savez, je prépare au mariage 20 couples par an. Donc depuis que je suis prêtre, ça fait plus de 200 mariages préparés. Il y a une chose que j'ai retenue. Une. On ne change pas la veille de son mariage. C'est pas la veille de son mariage qu'on apprend la fidélité. C'est pas la veille de son mariage qu'on apprend la maîtrise de soi. C'est pas la veille de son mariage qu'on apprend à tenir son oui. La veille de son mariage, on est le résultat des 10 années qui ont précédé. Je connais pas beaucoup d'exceptions. Ça veut pas dire que si j'ai fait une connerie à 16, 17 ou 18 ans, je suis foutu, bien sûr que non. Mais ça veut dire plus positivement que ce que vous vivez aujourd'hui prépare déjà l'homme, la femme que vous serez demain capable d'aimer et de s'engager. Votre exigence d'aujourd'hui, vos efforts d'aujourd'hui pour être vrai dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, prépare déjà l'époux, l'épouse que vous serez capable d'être demain. Ça, je vous le promets. Et donc, c'est infiniment plus positif que de vous dire « fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ». De vous dire « si tu apprends aujourd'hui, peu à peu, on est tous des pauvres dans ce domaine, mais si tu apprends aujourd'hui, peu à peu, à être libre par rapport à ce qui est trop facile, à ce qui va trop vite, à ce qui n'est pas encore vrai, c'est déjà parce que tu perçois que tu prépares ta capacité à t'engager, à te donner, à dire oui demain. » Moi, j'ai compris ça quand j'ai célébré un des premiers mariages que j'avais préparé. Couple de jeunes parisiens. Pas toujours été parfait, je sais pas si les gens parfaits existent, mais en tout cas, quand ils sont rencontrés comme étudiants, ils ont vraiment voulu vivre les choses sérieusement. Ils ont pris le temps de se connaître dans un groupe d'amis plus large, en vivant une belle amitié un peu gratuite. Et puis ensuite, ayant mûri les choses, ils ont décidé d'avancer à deux. Ils ont avancé à deux, ils se sont fiancés ensuite. Ils ont même voulu vivre des vraies fiançailles, continuer d'attendre le mariage pour se donner l'un à l'autre. Autant vous dire que dans leur groupe d'amis du 16e arrondissement, c'est un peu les derniers dinosaures. Mais c'était leur choix. Pas facile, facile pour personne, mais assez beau. Et ils sont mariés. Le jour de leur mariage, il y a deux choses qui m'ont marqué. D'abord, leur joie à eux deux. Vous savez, c'est vrai en sport, c'est vrai en classe, c'est vrai partout. La joie, elle est toujours le fruit de l'effort. De l'effort et de la préparation. Et ce jour-là, c'est beau parce qu'ils cueillent le fruit de leurs efforts. Je ne sais pas si vous imaginez, mesdemoiselles, la joie d'une fille de 24 ans qui entend son fiancé être capable de lui dire « Tu sais, ça n'a pas toujours été facile, pas toujours été parfait. » Et pour toi, j'ai appris à me relever. Pour toi, j'ai appris à attendre. Pour toi, j'ai appris à me préparer. Elle sait ce que ça veut dire comme combat et comme courage aujourd'hui derrière ces mots. Et elle comprend que c'est pour elle qu'il s'est battu, qu'il a appris à attendre, qu'il a appris à se préparer. La joie d'un garçon, messieurs, de 24, 25 ans, qui entend sa fiancée être capable de lui dire, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, mais pour toi, j'ai appris à attendre. Pour toi, j'ai appris à réserver ses gestes, ses paroles. Pour toi, j'ai appris à me préparer. Il sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Il comprend que c'est lui qui a mérité ses efforts de sa part. Et ça le touche profondément. Et ce jour-là, évidemment, ça marque leur joie. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est le regard du groupe d'amis. Un regard d'envie profond, au sens beau du terme. Il y en a un qui est venu me voir, garçon de 25 ans, façade, vous savez, le gentil branleur sympathique, quoi. Fêtard, le gars très à l'aise, beau gosse, machin, tout ce que vous voulez. Tableau de chasse impressionnant. Pas du tout le même idéal, lui. Non, vraiment, il n'avait pas arrêté. Un garçon de 25 ans, on a parlé une heure ensemble pendant la réception. Ce garçon m'a bouleversé. C'est lui qui m'a donné envie de faire ses conférences, d'écrire ce bouquin. Parce que voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous savez mon père, quand je vois leur joie eux deux, je comprends enfin ce qu'ils ont voulu vivre. Pourtant je peux vous dire qu'on s'est bien foutu d'eux. Mais aujourd'hui je paierai cher pour échanger nos places. Simplement me dit-il, je ne suis plus sûr d'être capable de la même joie. Je me suis trop donné. Quand vous entendez un garçon de 25 ans qui, derrière sa façade de gentil fêtard, vous révèle un cœur en fait laminé, qui doute de lui-même, usé à force de se donner facilement, vous dites, mais pourquoi quand il avait 17, 18 ans, il n'y a eu personne pour lui dire, mon vieux, qu'est-ce que tu gardes de précieux? Qu'est-ce que tu gardes de vrai? Voyez, c'est là où l'Église vous aime. Elle pourrait jouer aux copains avec vous. Ce serait tellement facile de vous dire, allez-y, amusez-vous, c'est de votre âge, protégez-vous, mais il y a là, quoi. Ce serait tellement simple, voyez, de jouer aux copains. Mais qui va vous récupérer dans ce cas-là dans 10 ans, quand les cœurs seront usés, fatigués, à force d'aimer faussement, à force de pas y arriver? Elle vous croit capable, elle vous aime parce qu'elle vous croit capable d'entendre autre chose. Elle vous croit capable de comprendre que vous êtes fait pour autre chose, pour quelque chose de grand. Et je veux même vous dire, c'est même pas une question de religion. Que vous soyez croyant ou non croyant, vous avez tous en vous cette intuition dans le secret de votre cœur que s'il y a bien un domaine de votre vie où ce qui est trop facile ne vous comblera pas, c'est celui-là, le domaine de l'amour. Vous avez l'intuition profonde que dans ce domaine-là, vous êtes fait pour quelque chose de grand. Seul quelque chose de grand pourra vous combler. Sauf que beaucoup me disent, mais mon père, aujourd'hui, c'est plus possible. Personne n'y arrive. Vous vous rendez pas compte, autour de moi, personne ne fait comme vous dites. Mais moi, je suis juste là pour vous dire que ça vaut la peine. Et que vous en êtes capable. Que si vous avez ce désir au fond de vous, quelles que soient les erreurs du passé, vous êtes capable de cette joie, de ce grand amour. Et qu'effectivement, ce qui est trop facile, ce qui va trop vite, ne vous comblera pas. C'est un peu comme quand vous êtes en montagne, vous savez. Paradoxalement, le moment le plus important, c'est quand vous êtes tout en bas et que vous choisissez le sommet que vous voulez monter. Vous avez le choix, vous avez 800 mètres. C'est pas très compliqué, 800 mètres, hein. On y va en 2 heures. La vue est assez belle, en plus, là-haut, c'est déjà pas mal. Et puis, on peut même se rassurer en se disant que c'est mieux que le 300 mètres. Et puis, la plupart des gens s'en contentent, en fait. Et puis, à côté du 800 mètres, vous avez le 3000. Le 3000, la pente est comme ça. On n'y arrive pas d'un coup. On se casse la figure. Faut se relever. Faut se laisser aider. Faut se laisser encourager. Il y a beaucoup moins de gens qui s'y aventurent. Mais ceux qui ont fait la montagne parmi vous le savent. La joie au 3000, elle a rien à voir avec la joie au 800. En fait, vous êtes fait pour le 3000. Vous êtes fait pour la joie du 3000. C'est ça que vous dit l'Église, voyez. Elle n'est pas là pour vous juger. Elle n'est pas là pour vous accabler. Elle est là au contraire pour vous encourager. Pour vous dire, je t'en supplie, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les chutes, ne renonce pas à cette joie-là. T'es fait pour ça. Encore une fois, c'est pas aujourd'hui qu'on y arrive. Ne vous inquiétez pas. Par contre, vous êtes à l'âge extraordinaire où vous choisissez. De quelle joie veux-tu être capable demain? Ça, c'est un moteur positif, vous voyez, pour être courageux aujourd'hui, pour apprendre peu à peu à être libre par rapport à ce qui est trop facile. De quelle joie veux-tu être capable demain? Quelle joie veux-tu pouvoir offrir demain à celui ou celle que tu aimeras? C'est ça qui aujourd'hui mérite tes efforts, parfois à contre-courant, pour te préparer, pour te garder précieusement. Est-ce que le garçon ou la fille que tu aimeras un jour mérite qu'aujourd'hui tu apprennes à dire non à ce qui est trop facile? Non pas juste pour dire non, pour respecter le code de la route du bon petit gâteau, ça tient pas ça. Mais parce qu'en apprenant aujourd'hui à dire non à ce qui n'est pas encore vrai, tu te prépares déjà à dire oui. On va me dire oui, mais c'est à contre-courant totalement. C'est vrai, c'est pour ça que je vais vous donner 3 moyens concrets. Et puis ensuite, je terminerai par un mot sur vos groupes d'amis. 3 moyens concrets pour accompagner cette préparation, cette lente et longue préparation à l'amour. Pas trop tôt, pas trop vite et pas trop près. Ça ne veut pas dire jamais, jamais, jamais. Je vous souhaite, si c'est votre vocation, de construire un grand amour. Mais d'abord, pas trop tôt. Pas trop tôt, ça veut dire, il y a un temps pour tout. Et en particulier, mes amis, ne zappez pas ce temps des années lycées ou du début des années étudiantes où la primauté, l'urgence est d'abord de vous construire vous, personnellement. Un jour, il y a un garçon qui vient me voir, 22 ans. Il n'arrêtait pas d'enchaîner les histoires qui duraient un an et demi maximum. Je lui dis, mais depuis que tu as 15 ans, combien de temps t'es resté seul? Il me dit, jamais plus de 4 mois. J'ai dit, mais ton problème est là, mon vieux. T'as jamais appris à te construire par toi-même. T'as toujours eu besoin d'une béquille affective, de quelqu'un à qui plaire, de quelqu'un... Mais comment tu veux construire une histoire à deux solide? C'était pas d'abord toi construit solidement. Voyez? Bien sûr qu'on peut être amoureux à 16 ans, 17 ans, je l'ai été. On peut être amoureux sincèrement. Génial. Je te demande même pas de refouler ça. C'est pas mal, c'est beau. Laisse-le mûrir. Tout doucement, tout doucement. T'es en train de te construire, tu changes à une vitesse incroyable. Comment veux-tu choisir l'autre? Demain, elle sera différente qu'aujourd'hui. Ça va très vite à cet âge. Laisse-le mûrir, du coup. Et pour l'instant, quel est le plus grand service que tu peux offrir, rendre à celui dont tu es secrètement amoureuse, à celle dont tu es secrètement amoureux? C'est de te construire, d'avancer dans tes convictions, de mûrir ta personnalité, de forger ton caractère, d'avancer dans tes études. Parce que le jour où tu te déclares, il a besoin de sentir que c'est une fille solide qui se propose. Le jour où tu déclares, Elle aura besoin de sentir que c'est un garçon solide, capable de tenir dans la durée qui se propose. Vous voyez, pas trop tôt, ça veut dire laissez-vous le temps, laisse-lui le temps de se préparer, de mûrir, de se construire, pour qu'il puisse ou pour qu'elle puisse avoir les épaules solides, capables de tenir une grande histoire dans la durée. Voyez. Et pour ça, mes amis, ne zappez pas ce temps des grandes amitiés. Le problème, c'est que dès qu'on est amoureux, souvent, poussé par la pression du groupe, on se dit il faut que je l'obtienne. Tout de suite, on rentre dans une logique de séduction, de petit couple. Avant d'en faire un petit ami, comme je le dis souvent, fais-en un de tes grands amis. Contrairement à ce que vous pensez, ça n'empêchera rien du tout. Au contraire, parce que pour aimer, c'est choisir. Pour choisir, il faut connaître. Demandez-vous avec qui vous vous laissez connaître, si ce n'est avec vos vrais amis. Parce que l'amitié laisse libre, parce que l'amitié est gratuite, et donc parce que l'amitié n'est pas de la séduction. Et donc avec vos vrais amis, vous êtes vous-même, vous êtes naturel. Tu veux savoir qui il est vraiment ? Tu veux savoir qui elle est vraiment ? Construis une amitié un peu gratuite avec lui, avec elle. Et là tu découvriras, elle se laissera connaître, il se laissera connaître au-delà de la façade de séduction. Oui. Peut-être que vous découvrirez du coup qu'il faut mieux rester amis, tant mieux, vous aurez blessé personne. Au contraire, peut-être qu'à un moment donné, vous sentirez que l'affection qui vous relie est assez mûre pour avancer un peu plus loin à deux. Tant mieux, ce temps d'amitié gratuite aura été le ciment de la suite. Voyez. Et c'est d'autant plus vrai que vous êtes jeune. Plus on est jeune, plus c'est vrai ce que je dis là. Ce temps d'amitié gratuit, ne zappez pas ces temps des grandes amitiés. Souvent d'ailleurs, vous le dites vous-même, combien parfois des histoires commençaient trop tôt, sans avoir les épaules pour ça, eh bien au lieu de faire grandir, risque d'enfermer. Vous êtes assez lucide sur les autres d'ailleurs, plus que sur vous-même. Et vous le reconnaissez en disant un tel, purée c'est pénible depuis qu'ils sont ensemble, on a l'impression que c'est un vieux couple de 40 ans de mariage, ils ont juste 16 ans l'un et l'autre, on voit plus lui sans elle, elle sans lui, etc. On sent que c'est scotché et tellement scotché que ça en devient gluant. Enfin, c'est, vous voyez, vous sentez un truc qui est une sorte d'histoire qui devient un cocon affectif enfermant. Voyez. C'est un très bon critère de... Arrêtez de regarder tel ou tel. C'est génial. Ne balancez pas devant moi. Mais, vous voyez, c'est très révélateur. C'est un bon critère de discernement. Est-ce que l'histoire que je construis me fait grandir, me rend rayonnant, d'autant plus ouvert aux autres, ou est-ce qu'elle m'enferme? Est-ce qu'elle m'étouffe? C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'histoires s'arrêtent. C'est qu'à un moment donné, l'un ou l'autre me dit, mais en fait, j'ai l'impression de ne plus avancer. J'ai l'impression d'être étouffé ou d'être encombré, voyez, et qu'on a l'impression de se libérer en rompant. Voyez, pas trop tôt. Pas trop tôt, ça veut dire laissez-vous le temps de vous construire. Il y a des jeunes qui viennent me voir, qui ont votre âge et qui sont en stress total parce qu'ils me disent, mais mon père, j'ai 17 ans, 18 ans, 19 ans, je suis pas encore sorti quelqu'un, j'ai pas encore été amoureux, j'ai pas encore couché, etc. Est-ce que c'est normal? Je dis, mais au contraire, mon ami, sois tranquille. Sois libre intérieurement, ne laisse pas le regard des autres choisir pour toi. Tu es dans cette phase infiniment précieuse où tu te construis. Et c'est déjà une façon de te préparer à aimer, t'inquiète pas. Voilà. Tout ce que tu vis maintenant prépare l'homme, la femme que tu seras demain. Pas trop tôt. Vous savez ça, depuis que j'ai écrit ce bouquin, je reçois des mails quasiment tous les jours de jeunes de votre âge qui l'ont lu. C'est assez marrant de voir les différences entre un mail de garçon et un mail de fille. Les mails des garçons font 4 lignes maximum. C'est déjà énorme qu'un garçon écrive. Et ça va droit au but. Mon père, j'avais déconné, merci, vous m'avez fait comprendre. Ou mon père, vous m'encouragez à tenir, merci beaucoup. Mesdemoiselles, vos mails, eux, font 4 pages minimum. Ça commence toujours par la même phrase. Mon père, il faut que je vous explique. Et là, vous avez 4 pages. Mais de sacs de nœuds, de complications, de sentiments entremêlés, de cœurs déchirés, partagés, etc. Ça se termine toujours par la même phrase. Mon père, qu'est-ce que je dois lui dire? Alors moi, je suis un garçon, je réponds par 4 lignes en disant, ben, va voir ton aumônier ou va voir tes éducateurs, parce que c'est difficile de vous aider sans vous connaître. Ça vaut la peine de prendre le temps de connaître, vraiment, d'aller parler. Vous voyez, c'est tellement révélateur d'histoires dans lesquelles on se met et qui nous font pas grandir, parce que c'est tellement trop tôt, on se retrouve avec des problématiques qui sont pas du tout pour maintenant. Je me souviens dans un grand lycée parisien, c'était des secondes, donc 2 ans plus jeunes que vous, mais enfin je leur donnais 20 ans à ces 3 filles qui viennent me voir à la fin, elles étaient toutes avec un type plus vieux, Et la première me dit, mon père, on a des questions à vous poser, on a des conseils à vous demander. Et je vous écoute. Et la première commence. Voilà, moi, dans mon couple, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de communication parce qu'en fait, on n'arrive pas trop, en fait, à avoir une écoute positive, machin, etc. La deuxième. Mon niveau de sexualité dans mon couple, c'est pas simple en ce moment, mon père, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait au même rythme de désir, et du coup, j'ai l'impression qu'on... Je dis, mais stop, quoi. J'ai l'impression d'entendre des bonnes femmes de 40 ans me raconter leurs problèmes de couple. Vous en avez 17 ou 16, quoi. C'est tellement pas le moment. Vous voyez, mais je ne reçois que ça. Des messages avec des garçons ou des filles de votre âge qui gèrent des problématiques de fidélité, des problématiques de discernement, de manque de désir, de machin, etc. Mais, je dis, mais c'est ça, on gère ça, vous savez, après 10 ans de mariage, normalement, quoi. Pas trop tôt, je vous en supplie. Pas maintenant. Voyez? À 18 ans, à 17 ans, on a envie de traverser le monde, de garder. C'est le temps vraiment des grands groupes d'amis extraordinaires, quoi. Combien? Souvent plus pour les garçons que les filles. Combien de garçons me disent, mon père, vous savez, en fait, ce que je kiffe vraiment, c'est quand je suis au rugby avec mes potes, quoi. Bon, mais là, je dois aller la voir, quoi. Ça me, vous voyez, une sorte d'encombrement, quoi. Mais en même temps, on est complètement pris amoureusement, mais vous voyez, une sorte de, on s'oblige à vivre des trucs qui sont pas encore, on n'est pas encore prêt pour ça. Ça m'arrive quand j'ai commencé comme prêtre, j'étais vicaire à la cathédrale de Versailles. Donc il y avait des grands lycées autour, beaucoup de jeunes que je voyais en paroisse, etc. Bref, ça m'arrivait souvent dans la rue en baladant de croiser des jeunes que je connaissais et de les voir tendrement enlacés. Je trouvais ça mignon, donc j'allais les voir. Et je m'approchais. Je sais pas pourquoi il se délassait assez vite. Et dans ce cas-là, je continue à jouer au gros lourd, ce que je sais bien faire. Et je disais, je vous sens assez proche, vous êtes cousin ou Le garçon m'insultait intérieurement. Enfin, c'est un petit Versaillais, donc il était poli. Il me regarde en disant, mon père, non, je vous présente une telle. C'est ma petite copine, quoi. Mais c'est tellement nul, ce terme, purée. Ma petite copine, quoi. C'est mignon, les petits couples à sortir du petit lycée qui se font des petits mamours avant de s'envoyer des petits textos et de s'appeler une petite heure chaque soir. Mais tout est petit dans l'histoire. Petit câlin, petit copain, petit texto, petit machin, petite histoire, petit couple. Pourquoi tout est petit? Voyez? On n'est pas fait pour ce qui est petit, on est fait pour ce qui est grand. Des grandes amitiés, des grands groupes d'amis, un jour un grand amour. Mais on n'est pas fait pour accumuler des petites histoires, des petits machins, des petits câlins, des petits trucs, des petits machins. Non! Voyez, je vous en supplie, vous avez un cœur large à 16 ans, 17 ans, 18 ans, quoi. Pas un truc pour... C'est pas une question de péché, hein. Mais, vous savez, dans ces petites histoires, on met notre grande sincérité, notre grande générosité. Et du coup, quand ça casse, ben, ces petites histoires font parfois des grandes blessures. Voyez? Parce qu'on n'avait pas les épaules pour ça, pour les porter. Pas tout de suite, pas trop tôt. Pas trop tôt, c'est-à-dire encore, je te donne un autre exemple auquel je pense pour montrer combien parfois c'est, justement, parce ça arrive trop tôt et du coup, on est un peu enfermé. Un peu comme deux arbres, vous savez, plantés trop près l'un de l'autre, quoi. Et qui s'empêchent de grandir à un moment donné. Je pense à ce garçon qui vient me voir un jour. Il était avec une fille depuis la terminale, qui avait 19 ans. Et il était vraiment scotché l'un à l'autre en permanence, quoi. Ce qui est jamais très bon signe. Parce qu'on a peur de se perdre. Mais si on a peur de se perdre, si on a peur, on n'est pas libre. Si on n'est pas libre, on ne peut pas choisir. Donc le garçon était scotché. Et puis là, du coup, elle était partie faire ses études supérieures en province. Et du coup, il était tout triste parce que il allait falloir gérer la distance, comme on dit. Et alors, je lui dis, mais moi, je pense que c'était plutôt une chance pour leur histoire. C'était plutôt un cadeau pour eux, pour prendre un peu de large, quoi, de souffler un peu. Mais lui, il était tout triste. Donc, j'essaie de compatir. Et je lui dis, vous faites comment, mon pauvre vieux? Il me dit, du coup, on s'appelle beaucoup plus au téléphone. Je lui dis, comment ça, on s'appelle beaucoup plus au téléphone? 19 ans, hein, 19 ans. Il me dit, on a pris l'habitude de s'appeler 1h30 chaque soir pour s'endormir ensemble. Oh merde, non. Je lui dis, mais c'est pas possible, mon vieux. C'est pathétique, enfin. T'as 19 ans et t'es déjà avec Bobonne 1h30 chaque soir pour t'endormir ensemble. Mais qu'est-ce que tu feras à 60, enfin, tu vois? Il manque plus que la couverture sur les genoux, les chiffres et les lettres en face. Ouais. Typiquement, vous voyez, voilà des trucs dans lesquels on se retrouve, mais des comme me dit un garçon... Je fais un peu mon canard, quoi. Mais putain, mais stop, quoi. Le gars, rugbyman, machin. Mais oui, t'es un peu un canard, quoi. Et puis, mesdemoiselles, sachez-le, parce qu'ils vous le diront jamais en face. Mais je vais vous le dire une fois pour toutes. Un garçon, au bout d'un quart d'heure au téléphone, n'a plus rien à vous dire. Il s'emmerde, vraiment. Et donc, Et donc, si le coup de fil dure plus d'un quart d'heure, il y a 9 chances sur 10 qu'il ait posé son téléphone, qu'ils sont en train de jouer à la PS4 et qu'ils vous répondent oui toutes les 8 secondes. Voyez. Faites l'essai pour voir. Posez-lui une question absurde, vous verrez. Pas trop tôt. Pas trop tôt. Vous enfermez pas trop tôt. Laissez-vous le temps les uns aux autres, voyez, d'acquérir cette capacité de choisir et de vous connaître vraiment. Deuxièmement, pas trop vite. Le jour où vous serez prêt, et pour moi c'est pas une question d'âge, ce serait absurde de ma part de dire rien avant 20 ans, rien avant 18, rien avant... Non, c'est pas une question de ligne rouge, vous voyez, vous comprenez bien que je suis au-delà de ça. C'est une question de maturité personnelle, et peut-être que certains sont déjà très mûrs parmi vous. La maturité, c'est infiniment personnel. Il faut juste la discerner. Et peut-être qu'il faut se laisser aider pour la discerner, en n'en parlant qu'un prêtre, un éducateur, un parent, qu'importe, mais parce que tout seul, surtout quand on est amoureux, on s'auto-justifie de tout. On a envie de voir les choses comme on voudrait qu'elles soient. Voyez. Donc c'est pas mal d'avoir une voix bienveillante et en même temps exigeante qui nous dit, qui nous pose les questions, qui parfois nous bouscule. Mais le jour où vous sentirez que vous êtes prêt, jour venu, qu'il soit déjà venu ou qu'il vienne plus tard, rappelez-vous une chose, rien de grand ne se fait sans prendre le temps. Un jour, une fille est venue me voir, elle était sortie avec un garçon pendant 4 ans, 17-21 ans. Elle me dit, vous savez, mon père, ça a été l'amour passion. On était le petit couple idéal en terminale que tout le lycée envie. Ça a été l'amour fou, très vite on a tout fait, très tôt tout fait. On se lâchait plus, on se quittait plus, etc. pendant 4 ans. Un amour dévorant. Elle me dit, aujourd'hui je m'aperçois qu'on ne s'est jamais réellement choisi. Nos corps se sont choisis. Notre besoin d'affection s'est choisi. Mais on ne s'est jamais laissé l'espace de temps et de distance nécessaire pour poser un vrai choix du cœur et de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que le désir, le corps, il est prêt très vite, très tôt. Le désir peut être ardent très vite, mais il peut aussi s'estomper très vite. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un peu un frein là-dessus en disant « Ok, tu as très envie, tu es très amoureux, mais prends le temps. » Pour que le cœur et l'intelligence, eux, pas à pas, progressivement, peu à peu, tout lentement, mais sûrement, eh bien, se préparent à faire un choix, discernent, mûrissent, vérifient, voyez, pour arriver à un choix. Le problème, c'est qu'on a tous un besoin d'affection immense. Et donc, on a tous la tentation de vouloir le combler très vite. Mais c'est souvent au détriment de la solidité. Quand une fille ou un garçon me dit, mon père, mais si je lui dis non, je vais le perdre ou je vais la perdre. Le même, la même, 3 mois plus tard. Mon père, mais si je couchais pas avec lui, avec elle, j'allais la perdre. Mais comment tu peux imaginer qu'il y ait un seul gramme d'amour chez celui qui te réclame quoi que ce soit, chez celui qui t'impose quoi que ce soit, chez celui qui exige quoi que ce soit. L'amour n'impose rien, l'amour n'exige rien. L'amour c'est patienter, l'amour c'est attendre, l'amour c'est se préparer. Tu veux savoir s'il t'aime, tu veux savoir si elle t'aime. Est-ce qu'il sait attendre? Est-ce qu'il comprend la valeur du temps? Est-ce qu'il comprend l'importance de se préparer, de mûrir tout ça? Est-ce qu'il sait être un peu maître, être maître de ses désirs? Non pas refouler son désir, mais éduquer son désir, voyez, pour laisser la place au cœur et à l'intelligence. Est-ce que dans sa vie, c'est pas juste son corps qui gouverne, mais son cœur et son intelligence? C'est ça qu'il faut prendre le temps de vérifier, de mûrir, d'approfondir, voyez. Pas trop vite, pas trop vite. Un jour, il y a un garçon qui vient me voir, il avait votre âge, 18 ans, il me dit, mon père, j'ai lu le bouquin, j'aime bien, je suis d'accord à peu près avec tout. J'en ai parlé avec ma copine, on a réfléchi, ça fait longtemps qu'on attend, 3 mois dans sa tête, ça voulait dire. Et on est prêt à avoir des relations sexuelles. Je lui dis, ben non, t'es pas marié. Il me dit, non mais je connais votre discours, mais figurez-vous que c'est la première. Et ça sera la seule, c'est la femme de ma vie, j'en suis sûr. Donc c'est à peu près ce que vous dites. Je dis, mais je te souhaite, on peut rencontrer sa femme à 18 ans, hein, ça arrive. Mais t'en sais rien pour l'instant, ou plutôt jusqu'à ton mariage. T'es encore libre, t'es encore en discernement, tu peux encore te reprendre. Or, tu ne peux pas demander à cette fille que tu aimes et que tu respectes, tu ne peux pas lui demander un tel don magnifique, immense, si tu peux encore te reprendre. Tu ne peux pas non plus te donner toi-même à ce point, si tu peux encore te reprendre. Quand vous donnez quelque chose, mais que vous pouvez le reprendre, ben ce n'est pas un don total, ce n'est pas un don véritable, voyez. Et je lui dis, attends ce jour où ce don... Même si tu es déjà sincère aujourd'hui, je vois bien que tu ne joues pas avec elle, que tu la respectes. Mais attends ce jour où ce don sera total parce qu'il sera sans retour. Et à ce moment-là, ce geste magnifique voudra dire tout ce qu'il veut dire. Ce n'est pas parce qu'on va voir un curé qu'on suit ses conseils. Une semaine plus tard, il y a là. Et pendant un an, il y a là joyeusement, je peux vous dire. Mais au moins, le garçon était franc, il m'en parlait. Et au bout d'un an, c'est elle qui a arrêté, et le gars revient me voir, type intelligent, donc il avait pensé les choses, il avait relu un peu tout ça, il me dit, mon père, j'ai mieux compris le pas trop vite. Pour deux raisons. D'abord parce que les textos, je peux les effacer, les photos, je peux les supprimer, les mails, je peux les supprimer. Il y a une chose que je peux pas effacer, c'est que je me suis donné. Et manifestement, c'était trop vite, trop tôt, pour qu'on puisse porter ensemble ce que ce geste voulait dire. Bien sûr que je peux me confesser, que le bon Dieu remet les compteurs à zéro, bien sûr, c'est ça l'essentiel, etc. On peut se relever, machin, mais malgré tout, je peux pas effacer cette histoire et je regrette un peu. Deuxième chose, me dit-il, c'est qu'elle a tout arrêté par un mail de quelques lignes. Une semaine avant qu'elle me l'envoie, on se donnait encore l'un à l'autre. Je lui en veux pas, elle ne mentait pas. Nous étions sincères. Le problème, c'est que nous étions simplement sincères. Et le désir sincère, il peut s'estomper en une semaine. Combien de fois j'ai entendu dans les confidences reçues des histoires d'un an, de 6 mois, de 2 ans qui s'arrêtent par texto, par quelques lignes de texto, par quelques minutes de coup de fil, quoi. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il n'y avait pas eu un choix véritable. On était dans le désir, tant que le désir va bien, tant qu'on a envie, tant que ça va bien, on se met ensemble parce que on est bien ensemble, ok. Et ça ne repose que sur un désir qui est fluctuant. Et le jour où on ressent plus rien, comme on dit dans ce texto qu'on envoie pour finir, eh bien, on arrête. Il n'y a jamais eu de choix du cœur et de l'intelligence, voyez. Parce qu'un choix véritable, c'est pas une semaine de difficulté qui le remet en cause. Au contraire, on traverse beaucoup de tempêtes quand on a choisi, voyez. Pas trop vite, c'est-à-dire il faut du temps pour que ce désir devienne un choix, voyez. Le désir ne suffit pas. Et puis, pas trop vite, ça veut dire, n'ayez pas peur non plus, comment dire, de la distance. Pourquoi? Parce que ce désir, pour le vérifier, pour le mûrir, pour l'éprouver, pour le discerner, il faut de temps en temps prendre du recul. Et ça, il n'y a que la distance qui le permet. Voyez? Quand un étudiant me dit, mon père, je suis content, elle est venue me voir ce week-end à Paris, maintenant je la ramène à la gare, elle repart à Lille. Très bien, je lui dis, mais je t'en supplie, hein, une fois qu'elle est dans le train, lui envoie pas un texto. C'est bon, le train n'a pas déraillé, tu l'aurais su, tu vois. Et puis ce soir, l'appelle pas. Vous venez de passer un week-end à discuter. Maintenant, tu rentres en toi-même. Tu rentres dans un temps de recul, de silence. Et puis tu réfléchis à ce que vous êtes dit. Tu relis un peu ce que vous avez vécu ensemble. Tu mûris tout ça, tu intériorises tout ça. Tu permets que tout ça décante. C'est comme ça que tu vas permettre que ça vous construise. Voyez? Et puis demain, l'appelle pas. Faut lui la paix. Elle a sa vie, tranquillement. Tu lui fais confiance. T'es pas là pour la posséder. T'es pas là pour avoir la main sur elle en permanence. Laisse-la libre. Et c'est toujours bon signe pour moi quand une relation a cette capacité à laisser libre chacun profondément, qu'on n'est pas dans cette possessivité craintive, voyez. Au contraire, un amour mûr, c'est un amour qui n'est plus possessif, qui est oblatif, qui n'est plus jaloux, qui laisse libre, qui laisse grandir, voyez. Un jour, il y a un garçon que je croise l'été. Le gars, on était à 300 textos par jour avec sa copine. Je lui dis, mais mon vieux, vous êtes en train de vous bouffer, vous allez vous détruire, vous allez vous bouffer, enfin c'est insupportable. Il me dit, mais pas du tout mon père, vous êtes ridicule, on est très libre, c'est parce qu'on s'aime beaucoup, on est très amoureux et du coup on a toujours envie d'avoir des... Je lui dis, attends, stop, on va faire un test. Je te parie un resto que t'es pas capable de me passer ton portable 24 heures. Le gars était gourmand, donc il me dit, ok, il me passe son portable 24 heures. Je lui rends son portable au bout de 24 heures et j'assiste au coup de fil qui suit. Elle était hystérique. Ils ont mis 3 jours à se réconcilier et il a failli se plaquer. Enfin, mais je lui dis, mais vous voyez, vous êtes complètement taré, quoi. Bien sûr que ça vous bouffe. Pourquoi? Parce que, je veux dire, et c'est un jour, si je peux vous donner un conseil concret, le jour où vous construisez une belle histoire, interdisez-vous les textos, quoi. Ou pour vous donner l'horaire du bus, mais c'est tout. Pourquoi? Parce que le texto, le SMS, c'est une façon artificielle de réduire toute distance, d'empêcher toute distance, de garder l'autre à nos côtés. En permanence. Et à la fois, c'est une présence virtuelle, donc qui n'a pas la même grâce qu'une vraie présence, et en même temps, qui empêche toute distance. Voyez? On perd tout. N'ayez pas peur de la distance. N'ayez pas peur de ces moments de recul, voilà, pour discerner. Et puis, ça me marque aussi, pardon, je pense à ça, parce que j'en entends souvent, des jeunes qui me disent, mon père, on s'est rentré une soirée, on a échangé nos portables. Si on s'envoie un texto pour s'inviter à prendre un café le lendemain, on zappe la messe du dimanche soir parce que le café dure longtemps. Et puis ensuite, toute la semaine, chacun dans son lit le soir s'envoie des textos. Et alors, de plus en plus long, de plus en plus appuyé, de plus en plus. Enfin, vous vous livrez à une vitesse mais hallucinante, des confidences par texto que vous n'auriez jamais faites en face à face aussi vite. Voyez, et au bout d'une semaine, on est sûr qu'on est amoureux. Mais c'est complètement virtuel. Voyez, un amour se construit mais tout doucement. Ça met des semaines et des mois. Regardez combien une amitié, une véritable amitié, met du temps à se construire. Comment imaginer qu'on passe déjà en quelques jours, quelques semaines au-delà? Voyez, bien sûr que non. Je parle même pas de ceux qui se déclarent par texto. Enfin, je vous en supplie, faites pas ça. Enfin, pas trop près. Pas trop près, ça veut dire le jour où on construit une grande histoire. Bien sûr qu'il y a un apprentissage de la tendresse, parce qu'un amour a besoin de s'incarner par des paroles, par des gestes, par des confidences échangées. Mais je vous en supplie, le jour où vous en êtes là, quand vous serez assez, quand vous sentirez que vous êtes prêt pour ça, rappelez-vous une chose, les gestes que vous posez, les paroles que vous posez, elles vous engagent, parce qu'elles vous marquent et elles marquent l'autre. Un jour, à une conférence pour étudiants à Paris, 300 étudiants, il y a une fille qui vient me voir à la fin, 22 ans, je la connaissais pas, mais elle me dit, il y a 2 ans, je suis sorti avec un garçon que connaissait bien, un tel. Ça a duré 1 an, au bout d'1 an, c'est lui qui a arrêté. Il s'en est bien sorti, il a tourné la page facilement. Moi, me dit-elle, je suis à terre depuis 1 an. Je n'arrive pas à me relever. Je suis profondément blessé. Parce que j'ai l'impression qu'il a joué avec moi. J'en parle au garçon. Garçon super. Et ensemble, ils n'avaient même pas été trop loin. Vraiment, un garçon d'une droiture, d'une belle droiture. Et lui tombe de haut quand je lui dis ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense qu'il n'avait pas pris le temps, ou il n'avait pas eu la prudence de discerner, de prendre le temps ensemble, de mûrir le sens qu'il mettait l'un et l'autre derrière les mêmes gestes et les mêmes paroles. Et sans doute qu'elle s'était sentie plus engagée que lui par ses gestes et ses paroles qu'ils avaient posées. Là où lui, non pas avait menti, mais sans doute avait été plus léger, voyez. Et du coup, elle se sentait trompée ou se sentait jouée, voyez. Et ça, c'est profondément blessant. Jean-Paul II disait une belle phrase, il disait que les gestes de ton corps soient le langage de ton cœur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de décalage entre le corps et le cœur. Ce que tu laisses imaginer ou espérer par les gestes de ton corps, que tu sois vraiment capable de le porter dans ton cœur. Enfin, je termine avec un mot sur le groupe d'amis. Tout ça est difficile à vivre quand on est isolé à vouloir le vivre. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, mais pour moi c'est le trésor de votre âge, au groupe d'amis, à la qualité de vos amitiés. Je vous souhaite vraiment de construire ça avec tellement de soin, quoi. Les amis, ça peut soit nous tirer vers le bas, soit nous entraîner vers le haut. Et je vous souhaite de construire vos amitiés pour qu'elles vous tirent vers le haut. De choisir vos amis pour qu'ils puissent vous tirer vers le haut et que vous puissiez les tirer vers le haut. Et je vais vous dire dans ces groupes d'amis ce que j'attends des filles et ce que j'attends des garçons. Vous allez me dire, ça fait un peu réac de croire qu'il y a encore des rôles spécifiques aux filles et aux garçons. Eh bien, tant pis. Vous ferez vous-même, vous êtes assez mûr pour faire les ajustements nécessaires. Et c'est vrai que ce que je vais dire des filles vaut en partie pour les garçons, ce que je vais dire des garçons vaut en partie pour les filles. À vous de faire les ajustements, je vous fais confiance là-dessus. Je vais commencer par les filles. Quel peut être votre rôle dans ces groupes d'amis? Eh bien, pour cela, il faut que vous soyez consciente du problème numéro 1 des garçons. Le grand drame des garçons, surtout à l'âge qui est le vôtre, c'est qu'ils sont souvent faibles. Ils sont un peu des fragiles de la volonté, nos garçons. Le grand drame des garçons, le grand péché des garçons, c'est la paresse ou la flemme. C'est ça qui nous plombe. Le garçon, quand vous l'écoutez, il est de bonne volonté. Il a des projets incroyables. Il veut faire le tour du monde, veut monter sa boîte, veut être champion de je sais pas quoi. Mais en attendant, ça lui demande un effort surhumain de ranger sa chambre, de faire son lit, de cirer ses pompes, de se mettre à ce devoir de maths, etc. En fait, le pauvre garçon, ce qui est difficile pour lui, c'est la mise en œuvre de la volonté. Voyez? Et la mise en œuvre de la volonté dans la durée, la persévérance, quoi. Écoutez-les parler, ça c'est marrant. Comptez le nombre de fois où ils utilisent le conditionnel. Il faudrait que, ce serait bien si, etc. Pourquoi je dis ça, mesdemoiselles? Parce qu'il faut que vous soyez conscientes de l'impact que vous avez sur notre volonté d'homme. Je vous donne un exemple, un test que vous pourrez faire dès cet été. Imaginez une grande maison de vacances avec une très grande piscine et un très très haut plongeoir. Il n'y a que des garçons dans la piscine. Aucun des garçons ne s'aventure sur le plongeoir. soit parce qu'ils ont la trouille, soit parce qu'ils ont la flemme. Faut quand même monter, vous voyez. Faites entrer trois jeunes filles en tenue de piscine avec ce concept assez féminin de venir à la piscine non pas pour se baigner mais pour se poser au bord de la piscine et débriefer de la soirée de la veille. La réaction des garçons va être absolument immédiate. Ils vont se bousculer pour être le premier à faire un magnifique saut de l'ange, la même où vous avez la trouille un quart d'heure avant. C'est-à-dire que le simple regard d'une jeune fille, la simple présence d'une jeune fille, a aidé un garçon à dépasser sa flemme ou sa peur. Pour cette raison, plus sérieusement, je pense, mesdemoiselles, que l'atmosphère de vos groupes d'amis dépend en grande partie de votre exigence. Moi, je bénis le ciel quand dans ces groupes d'amis, les garçons ont la chance de croiser sur leur route des filles qui sont joyeuses de vivre, qui aiment faire la fête, tout ce que vous voulez, mais qui sont en même temps assez lumineuses, assez claires, assez libres intérieurement, pour exiger de nous le meilleur de nous-mêmes, pour savoir parfois nous dire non, pour réclamer de nous le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez, pour nous tirer vers le haut. D'ailleurs, les garçons le disent en privé. Mon père, j'ai rencontré cette fille à une soirée. À son contact, on sent qu'on doit être un gars bien. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Vous voyez, c'est vrai pour les garçons et les filles, d'ailleurs. C'est la différence entre ceux et celles qui brillent et ceux et celles qui rayonnent. Briller, c'est pas très compliqué. Capter le regard de désir de l'autre, ça peut être très artificiel. Rayonner, c'est quand tout ce que vous êtes, pas votre physique, ce que vous êtes, toute votre personne, donne envie à l'autre d'être meilleur. Voyez. Je vais même être un peu plus franc avec vous. Mesdemoiselles, je crois capable de l'entendre. Il y a un combat qui est difficile souvent pour nous garçons, qui peut l'être aussi pour vous, jeunes filles, mais qui est souvent plus violent pour nous garçons à l'âge où on se construit. C'est le combat de la pureté personnelle, tout ce qui tourne autour de la pornographie, masturbation, tous les trucs un peu sales et faciles dans lesquels on peut s'embourber facilement. Cette maîtrise de soi, de nos désirs, de nos pulsions, est plus difficile souvent à acquérir. Et d'ailleurs, les blagues ou les rires gras, en fait, il y a une sorte de douleur chez nous, de pas être maître de nous-mêmes, de sentir que on est bien souvent esclave même de tout ça. Vous avez un rôle infiniment précieux dans ce combat, sans le savoir, non pas en jouant au confesseur ou laissez-nous ce rôle, ou en jouant au flic ou je sais pas quoi, mais parce que votre présence, votre clarté à vous, votre pureté, votre joie, en fait, nous tire vers le haut. On peut pas fréquenter des jeunes filles qui sont lumineuses, qui sont claires, qui ont cette clarté dans leur regard, sans se sentir nous-mêmes obligés d'acquérir cette clarté. Voyez, vous nous entraînez. C'est comme si votre clarté rejaillissait sur nous et nous aide à sortir de ces ombres, de ces ténèbres, de cette boue parfois. Voyez, vous êtes souvent celle qui allait nous donner le courage de pas nous embourber ou de nous relever, parce que nous pressentons que pour mériter votre amitié, pour mériter peut-être un jour votre amour, il nous faut donner le meilleur de nous-mêmes. On ne peut pas s'enliser dans n'importe quoi. Un jour, j'ai reçu une fille qui était un peu naïve, mais très sympa. 23 ans, 24 ans, déjà fiancée. Elle m'appelle en larmes en me disant « j'ai besoin de vous voir ». Je pensais qu'il y avait eu un drame. Donc, je lui dis « venez demain, très vite ». Je la reçois dans mon bureau, elle était en larmes. Et je lui dis « qu'est-ce qui se passe ?» Elle finit par me dire « mon fiancé m'a avoué qu'il avait déjà regardé un film porno. » Je lui dis, un seul. Il fait partie de l'élite, je peux vous dire. Elle me dit, mais vous comprenez pas, c'est hyper blessant ce que vous dites, etc. Comment il peut avoir regardé ça, ces images-là, aujourd'hui, forcément marquent son regard sur moi. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'à moins d'être elle-même blessée, ce qui arrive de plus en plus, n'importe quelle jeune fille aura de la peine. Sera triste, sera même blessé, que son copain, que son fiancé, que son mari aille s'abîmer le regard là-dessus et ensuite pose ce regard sali, souillé sur elle. Évidemment que ça marque le regard, ça fracasse le regard. Mais en fait, c'est elle que j'ai reprise. Parce qu'elle m'a raconté la suite. Et qu'est-ce que le garçon lui avait dit ? Le garçon, 24-25 ans, lui avait dit « Tu sais, ça a été un combat difficile pour moi depuis mes 14-15 ans, comme pour beaucoup. Mais avant même de te connaître, pour trouver la force d'aller me confesser, pour trouver le courage d'aller me confesser, pour trouver la force de me relever, de ne pas me décourager, de ne pas m'embourber, de ne pas m'habituer, pour trouver la force de lutter contre tout ça, eh bien, j'avais décidé dans mon cœur d'offrir ça pour celle que j'aimerais un jour, que j'épouserai un jour. Parce que je me disais que le jour où je la rencontrerais, je voulais pouvoir poser un regard clair sur elle, pouvoir lui dire que je m'étais battu pour elle. Et donc, sans le savoir, disait-il à cette fille, c'est toi qui m'as donné cette force. Et d'ailleurs, c'est quand je t'ai rencontré que j'ai réussi, après quelques mois, à me libérer de toutes ces habitudes-là. À ton contact, c'est là où j'ai trouvé enfin ce courage. Vous voyez, je trouve ça, je lui dis, mais mademoiselle, c'est la plus belle preuve d'amour qu'un homme puisse vous donner. Non pas d'avoir été parfait qui pourrait dire ça, mais de vous dire qu'il s'est battu pour vous, avant même de vous connaître. C'était vous, c'était pour vous qu'il se battait. Voyez, contre lui-même, pas simplement, et les garçons comprennent ce que je dis, celle pour qui on est prêt à se battre, c'est celle qu'on aime. Pas simplement contre les concurrents, mais contre nos propres faiblesses. Voyez. Et vous serez souvent en ce sens, mesdemoiselles, celle pour qui nous nous battons, celle qui nous donnait le courage de nous battre, voyez, pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour transcender toutes ces faiblesses et ces fragilités qui sont les nôtres. Je le crois profondément, et c'est en ça que vous êtes infiniment précieuse pour vos amis garçons. Quant à vous, messieurs, vous connaissez le drame des jeunes filles. Enfin, c'est aussi celui de certains garçons, et de pas toutes les jeunes filles, enfin bref, le drame de certaines jeunes filles, de beaucoup de jeunes filles quand même. En fait, c'est qu'elles sont compliquées. C'est qu'elles ont un cœur compliqué. Je crois que c'est vrai quand même. En fait, dans le cœur de beaucoup de jeunes filles, il y a une crainte, consciente ou inconsciente. La crainte de ne pas être aimée, de ne pas être choisie, de ne pas être regardée, de ne pas être comprise, de ne pas être considérée. Et donc, il y a le besoin conscient ou inconscient, je souligne inconscient, de se rassurer, de trouver confiance en soi. D'où le travail permanent de l'imagination. Ça n'arrête pas là-dedans, chez beaucoup d'entre elles. Je vous donne deux exemples concrets. Un jour, je pars en vacances avec des premières. J'en connaissais un parmi eux, un groupe d'une quinzaine de jeunes, et qui me dit, mon père, on a une grande maison de vacances, venez avec nous, on part, on aura des bons moments de discussion comme ça, avec le groupe d'amis, et puis vous pourrez faire un peu de voile, etc. Je pense que c'est aussi pour avoir la maison sans les parents, je suis pas complètement con non plus, mais je dis oui, c'est très sympa d'inviter vos prêtres en vacances, n'hésitez pas. Surtout quand vous avez une maison sympa. Et je pars avec eux, et vous rigolez, mais pour moi, pour mon groupe d'amis que j'ai eu en lycée, je me souviens comment, des vacances, on voulait partir au ski sans les parents. Et on avait négocié ça en invitant un jeune prêtre. Et ça a été fondateur pour notre groupe d'amis. Parce que ça a permis de dépasser cette sorte de pudeur qui fait qu'on ne parle pas des choses de fond. Et ça nous a, mais la qualité de notre amitié a pris un... Et ça ne nous a pas empêché, je peux vous dire, de joyeusement nous amuser. Parce qu'il ne faut pas choisir un prêtre pénible, évidemment. Voilà. Je pars avec eux. Alors, c'est assez marrant d'observer un groupe de jeunes. Je sortais tout juste du séminaire, donc j'avais un peu oublié ça. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est la différence de sac. Ça, c'est la taille du sac d'un garçon qui part une semaine en vacances. La taille du sac d'une fille qui part une semaine en vacances, c'est à peu près trois chaises, quoi. Vous voyez, trois fauteuils, quoi. Parce que elles ont, enfin, c'est ce qui m'a le plus bluffé, vous voyez, elles ont trois tenues par jour. Elles n'arrêtent pas de se changer. Voilà. Mais au moins, elles se changent. J'étais à un moment donné avec... J'étais au moins à un moment donné avec des garçons en bas, dans le salon, à discuter quand descend une des jeunes filles. Donc première, 17 ans à peu près, il se trouve qu'elle était ravissante, mais vraiment. Elle descend dans sa tenue de milieu d'après-midi, choisie avec discernement. Elle arrive en bas, elle est juste splendide quand elle fait son apparition. Les garçons, inconsciemment, arrêtent complètement de m'écouter. Elle traverse le salon. Elle va s'asseoir dans un canapé entre deux garçons où je ne pensais pas qu'il y avait de la place. Et elle termine sa trajectoire en déposant délicatement la main sur le genou de l'un d'entre eux. Toute mignonne, toute sourire, toute rassurée. Et elle, ça lui suffisait. Sauf que eux, ils n'en pouvaient plus. C'est tellement révélateur, vous voyez. Alors, calmez-vous. Il y en a qui s'excitent très facilement quand même, hein. Vous êtes très sensible. J'arrête l'histoire là. Ils n'en peuvent plus. C'est très révélateur de quoi? Non pas, faites pas de contresens. Je supporte pas le discours qui est de dire les filles sont que des allumeuses, machin, etc. Pauvre garçon victime de ces filles, machin. Non. Je supporte pas ça. Je préfère largement, je demande pas aux filles de s'habiller comme des sacs, je préfère largement des filles qui sont féminines et qui sont heureuses de l'être et qui l'assument. Et les garçons, on se parle en plus tous des taureaux qu'il faut protéger, vous voyez, parce que sinon c'est... Bon. Mais beaucoup plus douloureusement, combien de fois j'ai reçu des filles les larmes aux yeux, venues me dire, mon père, mais moi je voulais pas me donner aussi loin. Moi je voulais pas aller aussi loin. Moi je voulais ce moment de tendresse qui me rassure. Moi je voulais ce moment où je me sens aimé dans ses bras. Moi je voulais ce moment d'intimité qu'on partage. Mais pour ça, j'ai allumé un feu que j'étais bien incapable de maîtriser ensuite. Voyez, ou pour me sentir aimé, etc. Je l'ai mis dans mon lit, mais parce que au fond, c'est pas, j'avais pas envie de sexe. J'avais juste envie de, en fait, de sentir qu'il tenait à moi. Voyez, et que j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait que je pourrais me rassurer. Je pense à des fiancés. Je leur dis de, si vous voulez vivre la chasteté avant le mariage, faut pas dormir ensemble. Ils me disent tous, mais mon père, ok, on va rien faire de plus, on dort ensemble, parce que la fiancée me dit, mais vous savez, mon père, c'est un moment d'intimité tellement sympa, on se voit peu, du coup là, on peut parler dans le lit, tout ça, on peut parler des heures, c'est extraordinaire, de poésie, de cinéma, de partager. J'ai dit, c'est stop, quoi. Vous pouvez parler 4 heures dans un lit, une place de cinéma, de poésie. Lui, au bout d'un quart d'heure, c'est plus possible, quoi, voyez. La poésie, on passe à autre chose, quoi. Et c'est normal, voyez. Mais combien de fois, pour se rassurer, on donne plus que ce qu'on voulait au fond. Un deuxième test que vous pourrez faire, messieurs, pour vous montrer le travail de l'imagination chez vos amies filles. Vous apprenez, lundi, vous apprenez que demain, mardi, dernière heure de cours, le prof est absent, et vous sortez plus tôt. Vous venez de l'apprendre, vous croisez une de vos amies, c'est juste une amie, rien de plus, il n'y a jamais eu rien de plus, c'est juste une amie, c'est par hasard que vous tombez sur elle quand vous l'avez appris, et vous lui dites, tiens, demain on sort plus tôt, on a le temps, si tu veux, on peut aller prendre un café demain. Avec joie, vous dit-elle. Eh bien, très bien, écoute, à demain. Et vous partez à votre entraînement de foot ou de rugby, je sais pas, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans la seconde qui suit, le moment où vous le tournez le dos, elle prend son portable et appelle sa meilleure amie. Alors, tu sais quoi? Il y a Jean qui propose de prendre un café. Est-ce que tu penses que ça veut dire que par rapport à ce que je dis la semaine dernière, est-ce que tu penses que peut-être une approche de réponse? Je sais pas, si tu veux, mais je connais sa conduite, machin, etc. Et le pauvre gars, il est sur son terrain de rugby, il a déjà oublié le café. Et elle, pendant 24 heures, elle va se faire tous les films du monde, elle va remuer le monde entier, elle va mobiliser Facebook en entier pour savoir le sens de ce qu'elle fait. Parce qu'elle est persuadée, et c'est ça qui est épuisant pour nous garçons, elle est persuadée qu'il y a un sens caché à ce qu'elle fait. Ouais. Alors comment les aider, messieurs? Il faut deux choses. D'abord, rassurez-les, au moins une fois par jour. Dites-leur qu'elles sont géniales comme elles sont, simples et naturelles, c'est ainsi qu'elles vous aident. Mais vous savez, je rigole, mais c'est intéressant que vos éducateurs ou animateurs ici fassent un jour le sondage à bulletin secret. Garçons et filles, combien d'entre vous manquent de confiance en eux parce qu'ils n'ont pas assez entendu ces paroles d'encouragement de leurs parents, de leurs professeurs, de leurs prêtres, mais aussi de leurs amis, de leurs amis. Ces paroles qui donnent confiance. Parce que justement, dans nos groupes d'amis, bien souvent, alors on se livre sur beaucoup de choses, mais il y a comme une forme de pudeur qui nous empêche de dire l'essentiel. Qui nous empêche de dire à l'autre, tu es génial comme tu es simple et naturel, c'est comme ça que tu m'aides, tu me fais grandir ainsi, etc. Ces paroles qui pourraient rassurer. Et du coup, on va chercher cette confiance en nous dans les bras du premier venu à l'extérieur du groupe. Alors que ces amitiés, quand elles sont vraies, quand elles sont belles, devraient suffire. Voyez, à nous donner confiance, à nous encourager. Voilà. Parce qu'on découvre, nos amis nous disent qu'on les fait grandir, qu'on les aide ainsi, parce qu'on veille les uns sur les autres. Voyez. Et puis ensuite, ne jouez pas avec les sentiments de l'autre, mais c'est vrai aussi pour les filles. Ne jouez pas avec les sentiments de l'autre. Vous voyez comme un café peut laisser imaginer plein de choses. Bah, on va pas supprimer le café pour autant, mais du coup, comprenez combien je t'aime un peu trop facilement dit, combien un geste de tendresse trop tôt posé, combien un texto un peu vite envoyé peut laisser espérer quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à tenir, à promettre. Jouez pas avec ça. Et puis enfin, messieurs, parce que là aussi je vous crois assez mûr pour l'entendre, je voudrais vous alerter d'une chose. Depuis que je suis prêtre, que je confesse, il y a une chose qui m'effraie, vraiment, de plus en plus. C'est les ravages de la pornographie. Je dis ça aux garçons, c'est souvent, là aussi, un combat plus violent pour nous, mais En même temps, j'ai reçu la lettre d'une fille d'un lycée d'Aix-en-Provence où j'étais allé faire cette conférence, fille de terminale, qui m'a beaucoup ému, qui m'a dit « Je vous en supplie, dites pas que ça concerne que les garçons. C'est encore plus culpabilisant. » Moi, me dit-elle, par curiosité malsaine pour aller voir ce dont les garçons parlaient dans la cour de création en quatrième, eh bien, je suis allé un jour sur ces sites-là. Et depuis, j'arrive pas à décrocher. C'est quelque chose qui me plombe et qui me pourrit la vie intérieurement. D'autant plus que personne, quand on me voit, imagine que je lutte là-dessus. Donc ça peut être un combat pour tout le monde, c'est vrai, quelles que soient les façades. Le prêtre sait bien que derrière, c'est toujours plus complexe. Mais faites gaffe à ça. Il ne s'agit pas de dramatiser, on est d'accord. Mais voyez, c'est un combat pas simplement contre le péché. C'est vraiment un combat sur lequel il faut que vous soyez courageux et que vous soyez... Ne vous découragez pas là-dessus, quoi. Parce que c'est pour celle que vous aimerez, pour celui que vous aimerez qu'il faut vous battre aujourd'hui. Parce que évidemment que ça vous fracasse. Ça vous fracasse le regard. Mais si j'en crois les confidences, ça fracasse aussi, bien souvent, votre façon d'entrer dans la sexualité. Quand j'entends des filles ou des garçons qui, bien trop tôt à mes yeux, pour moi il faudrait attendre le mariage, je vous l'ai dit pourquoi, mais qui ont déjà une vie sexuelle et qui me racontent ce qu'ils peuvent vivre, mais je me dis, mais comment vous pouvez faire ça? À des filles, je dis, mais comment tu peux accepter de faire ça? Mais mon père, tout le monde le fait aujourd'hui. J'ai pas envie de passer pour la cruche ou la coincée du groupe. Je dis, mais que les gestes de votre corps soient le langage de votre cœur. Il y a des gestes qui ne seront jamais le langage du cœur. Comment il peut te demander ça? Comment tu peux accepter ça? Et au garçon, je dis, mais comment tu peux faire ça? Si tu la respectes. Ou alors tu joues avec elle. Mais mon père, elle est consentante. Ah ben, tu me rassures, merci. Ou alors mon père, c'est mutuel. Et alors, on peut se blesser mutuellement, tu sais. Mais en fait, inconsciemment, on reproduit ce qu'on a vu dans ces vidéos, évidemment. Et on, c'est complètement inconscient, c'est-à-dire que ça nous a imprégnés. Et tout le monde pense aujourd'hui qu'il faut passer par la même séquence. Mais enfin, il faudra vraiment m'expliquer comment tel ou tel geste peuvent être le langage du cœur. Souvent, on me dit, mais mon père, qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est catho? Mais je dis, mais c'est ridicule comme question. Je ne vais pas vous donner le Kama Sutra des cathos, quoi. C'est ridicule. C'est pas une question de... La question, c'est bien plus votre conscience. C'est bien plus votre conscience. Regarde-toi dans une glace et demande-toi si les gestes que tu poses sont le langage du cœur. Qu'est-ce que le cœur veut dire par là? Qu'est-ce que tu veux? Voyez, combien de fois on fait des choses simplement pour pas perdre l'autre? Simplement pour pas passer pour une cruche? Simplement pour... Parce que... Non, faites gaffe à ça. Mais voyez, ça, c'est l'impact de la pornographie. Je vous dis ça avec beaucoup d'humilité parce que j'ai conscience que le combat est infiniment plus dur pour vous que pour moi à votre âge. Pas parce que j'étais meilleur que vous, hein. J'avais toutes les faiblesses d'un garçon de votre âge, rassurez-vous. Mais en fait, moi, ça fait vieux qu'on me dise ça, mais il n'y avait pas Internet quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il n'y avait pas Internet. Et donc, si on voulait avoir des images dégueulasses, il fallait aller chez un marchand de journaux qui connaissait toute ma famille, et dans la file d'attente avec trois vieilles dames derrière moi, oser demander le magazine en haut à droite bien dégueu, quoi. Mais j'ai jamais osé faire ça, enfin, vous voyez. Pas parce que j'étais meilleur que vous, mais parce que j'ai trop de fierté pour faire ça. D'ailleurs, j'ai jamais vu quelqu'un qui ose faire ça. Ça me fascine, quoi. Quelle peut être la psychologie des gens qui arrivent dans un magasin bondé et qui osent devant tout le monde demander un magazine dégueu, quoi. Mais, bon, ils sont peut-être, ça serait intéressant à étudier quand même. Mais, aujourd'hui, évidemment, moi, quand j'étais au lycée, ces images-là tournaient, mais, c'était soit le Minitel avec des pixels qui étaient gros comme ça, donc il fallait vraiment en vouloir pour s'exciter dessus, quoi. Soit c'était des magazines ou des VHS qu'il fallait mettre dans le magnétoscope. Mais dans toutes nos familles, il y avait un magnétoscope dans la télé, dans le salon, quoi. Donc, mais évidemment que j'ai jamais ramené ça chez moi. Enfin, j'étais bref. Mais donc il y avait quelques amis qui tournaient des trucs comme ça, mais c'était beaucoup moins accessible. Aujourd'hui, dès qu'il y a un écran dans les mains, c'est immédiatement, la tentation est là. Faites gaffe avec ça. Bienheureux, non pas ceux qui sont parfaits. Bienheureux ceux qui savent se laisser aider. Bienheureux ceux qui ont le courage d'aller se confesser. Bienheureux ceux qui ont le courage de se laisser encourager quand ils sentent que ça les plombe vraiment. Bienheureux ceux qui offrent ça déjà pour celui, celle qu'ils aimeront un jour. Voyez. Et vous serez fiers, je peux vous le promettre. Vous serez fiers. Après ce long combat, c'est souvent un long combat pour acquérir cette liberté intérieure, vous serez fiers de pouvoir dire à celui ou celle que vous aimerez, c'est pour toi que je me suis battu, c'est pour toi que j'ai réussi peu à peu à me libérer de tout ça, à acquérir cette maîtrise de moi-même, ce regard clair. Je conclue. Vous allez me dire, c'est marrant, vous êtes prêtre et vous n'avez pas trop parlé du bon Dieu. C'est vrai, parce que je pense que même s'il y a des non-croyants parmi vous, ils peuvent retirer de tout ça certaines choses. Évidemment que les chrétiens n'ont pas le monopole de l'amour vrai. Évidemment qu'on est, c'est même le point commun qu'on a tous entre nous. On est tous faits pour ça. Il y a tous en vous ce désir d'aimer, d'être aimé. Voyez. Et d'ailleurs, je suis assez touché de voir que de plus en plus, je reçois des messages ou des mails de jeunes qui sont pas cathos et qui me disent « Mon père, un ami m'a passé votre bouquin. Ça m'a marqué, ça m'a touché. » Parce que bien sûr qu'on a ça en nous. Voyez. Qu'est-ce que Dieu ajoute quand même? Deux choses par lesquelles je conclue. La première, c'est que rien n'est jamais foutu. Ne dites pas « C'est beau, mais pour moi, c'est trop tard. » Je suis déjà bien blessé, je suis déjà donné, je suis déjà allé trop loin, je suis déjà fragile là-dessus. Non, rien n'est jamais trop tard. Ma plus grande joie de prêtre depuis 14 ans, je vais vous la dire, c'est de voir combien Dieu est capable de guérir des cœurs blessés. Quand vous avez la simplicité, la franchise de venir vous confesser, de venir déposer simplement auprès du bon Dieu vos limites, vos fragilités, vos erreurs, les blessures qu'on vous a faites, celles que vous avez pu faire, vos combats, le Seigneur est capable non seulement de pardonner, mais de réparer, de vous redonner cette virginité du cœur qui, au fond, est celle qui compte à ses yeux. Voyez, de vous redonner cette clarté, cette liberté pour aimer. Ne doutez jamais de ça. Jamais Dieu ne se découragera de vous. Et j'ai autant d'admiration pour ceux qui avancent droitement en se gardant à peu près que pour ceux qui parfois ont vécu autre chose, mais ont réappris à attendre, ont réappris à aimer. Voilà. Ça demande le même courage, ce sera la même joie après. Et la deuxième chose que Dieu apporte, c'est qu'il vous rend capable. Ne dites pas c'est beau, mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Ce serait cruel de la part de Dieu d'avoir mis dans votre cœur un tel désir et en même temps de vous dire démerde-toi. Et si tu tombes, tant pis pour toi. Bien sûr que non. Ma joie, c'est de voir aussi des jeunes de votre âge qui retrouvent le chemin de la prière, qui retrouvent le chemin de la messe, qui retrouvent le chemin de leur prêtre, qui retrouvent le chemin de la confession. Parce qu'ils ont compris que seul, on se décourage très vite. Mais que, ou on s'auto-justifie très vite. Mais que l'Église, à travers ses prêtres, à travers ses éducateurs, à travers ses professeurs, ses animateurs, l'Église est là pour les aider. Pas pour vous juger, pas pour vous accabler, mais pour vous encourager à ne pas vous contenter de peu, à oser croire que cette joie est faite pour vous. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est pour ça que je fais ces conférences. C'est pas pour vous convaincre que vous êtes fait pour aimer, vous le savez au fond de vous, que vous êtes fait pour quelque chose de grand et de beau. C'est juste pour vous encourager, quelles que soient vos faiblesses, quelles que soient les fragilités du passé. Vous êtes capable de ça, vous êtes fait pour ça. Et vous verrez que cette joie-là, si vous osez y croire et vous y préparer, elle est contagieuse. Parce que vous entraînerez autour de vous vos amis. Parce que vous ferez découvrir à tant de cœurs qui ne savent plus aimer, qui ne se savent pas aimer, la joie d'un amour vrai. Je vous remercie. On a un peu de temps, et donc on va, si vous voulez, prendre 2-3 minutes de pause en restant ici, bien sûr. Et puis si vous voulez, vous pouvez écrire vos questions sur un petit bout de papier si vous en avez, si vous avez vos affaires, ou sinon vous les poserez directement. Et dans ce cas, vous les ramenez, vous les faites ramener ici le plus vite possible. Et puis je répondrai à quelques questions, voilà, sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai pas dit. N'hésitez pas, on reprend dans 2-3 minutes. Alors, je vais répondre à quelques questions. Première question sur l'homosexualité. Il y a plusieurs questions sur qu'en est-il de l'amour homosexuel. En fait, ce serait difficile de répondre en 2 minutes parce qu'on risque très vite de retomber dans le slogan ou de manquer de nuances, etc. Or, sur ce sujet, je suis effrayé de voir combien les contresens, les malentendus ont été nombreux. Et du coup, l'Église a une image dramatique qui ne correspond pas à ce qu'elle dit vraiment. Voilà. Si ce sujet vous concerne ou concerne un ami ou une amie, prenez le temps d'aller en parler vraiment avec un prêtre. Parce que ça vaut la peine de rentrer dans ce que dit vraiment l'Église, de comprendre ce que dit l'Église, de comprendre aussi comment ce que dit l'Église. Et là, non pas pour me juger, mais pour m'aider à trouver un chemin de bonheur. Voilà. Dans le petit bouquin dont je vous ai parlé, Aimer en vérité, il y a un passage, j'ai fait un chapitre sur l'homosexualité, voilà, qui redit ces deux choses-là fondamentales à la fois. L'amour de Dieu est inconditionnel. on ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'il est, parce qu'on ne choisit pas ce qu'on est. On choisit ce qu'on fait. Donc on peut juger les actes, mais jamais les personnes. C'est ce que je vous ai dit au tout début de la conférence. Hein. On ne réduit jamais quelqu'un à ce qu'il fait. Et on est de toute façon, et quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vive, on est infiniment aimable. Et donc il y a un respect inconditionnel des personnes, évidemment. Et quand je reçois quelqu'un, je ne reçois pas quelqu'un avec une étiquette sur son front. Quoi qu'il vienne me dire, et quoi qu'il vive, je reçois une personne qui est aimée de Dieu, et auprès de laquelle je manifeste cette tendresse et cet amour de l'Église. Vous voyez ? Ça, c'est une première chose. Il faut le redire parce qu'on a tellement entendu que l'Église était homophobe, c'est le truc qu'on vous matraque média après média, qu'on a l'impression que l'Église juge, condamne les personnes homosexuelles. C'est pas vrai. Et je trouve ça insupportable de le dire. On passe notre temps à recevoir, à accueillir les personnes telles qu'elles sont. Voyez. Mais comme je vous l'ai dit, on peut aimer quelqu'un et lui proposer un message qu'il ne peut pas vivre encore complètement, qu'il ne parviendra pas, peut-être pas toujours à vivre pleinement, mais comme beaucoup d'entre vous. C'est pas parce que je vais pas aimer parmi vous simplement ceux qui sont d'accord avec moi ou ceux qui vivent parfaitement ce que je viens de dire. Non, ce que je viens de dire, c'est un idéal que je vous propose, une sorte de chemin, voilà, sur lequel vous avancez si vous le voulez. L'Église, quand elle parle, c'est toujours à la liberté des gens qu'elle s'adresse, et vous avancez à votre rythme sur ce chemin. Et c'est ça votre liberté et votre responsabilité. Voyez ? Amour inconditionnel des personnes, et en même temps, l'Église, effectivement, a une proposition, un message qu'elle adresse à la liberté de chacun sur la vie conjugale, sur l'amour conjugal. Dans ce message-là, éclairé par la parole de Dieu, c'est pas elle qui s'invente son propre message, évidemment, la complémentarité homme-femme, la fécondité qui en découle, l'altérité des identités sexuelles est structurante. C'est-à-dire que pour l'Église, ça fait partie des bases, la structure même du couple, et non pas accessoire. Et donc quand ça manque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de générosité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sincérité, évidemment, mais ça veut dire qu'il manque quelque chose, il y a comme une blessure, quelque chose qui manque, vous voyez, pour correspondre pleinement à ce projet de Dieu. Exactement comme quand deux jeunes me disent qu'ils ont une relation sexuelle ensemble sans être mariés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sincères, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas généreux. Et ce n'est pas cette tendresse-là que je vais leur demander de regretter, ça c'est beau. Mais à mes yeux, par rapport à ce que je comprends du projet de Dieu, il manque à leur relation, pour qu'elle soit pleinement vraie, non pas cette altérité, si c'est un garçon ou une fille, mais cet engagement, vous voyez, cet engagement définitif. Voilà. Pour l'Église, il y a plusieurs dimensions qui structurent le couple. Hein, l'amour conjugal, c'est l'engagement définitif, c'est l'altérité, c'est la fécondité possible, etc. Voilà. Et quand il manque une de ces parties, il y a quelque chose de blessé, de pas idéal. Voilà. Et c'est là où chacun ensuite, et c'est dans l'accompagnement, et c'est pas en deux minutes qu'on peut le faire, mais dans l'accompagnement qu'on dit comment je peux avancer, comment je peux vivre, y compris parfois avec ces blessures que je porte, dont je suis pas responsable, voyez. Mais quel autre chemin, quelle autre façon d'aimer, de me donner, de me mettre au service, je vais pouvoir vivre. Je bascule avec une question, vous verrez le rapport sur la question, certains s'inquiètent de ma propre vie affective avant d'être prêtre, voire de ma vie sexuelle, je les remercie beaucoup de leur angoisse, mais c'est intéressant. Je vais vous dire deux choses là-dessus. La première, je vous ai dit dans ma conférence qu'il m'est arrivé d'être amoureux. Je rends grâce à Dieu de pas m'être blessé ou de pas avoir blessé une jeune fille, parce qu'il y a trois choses qui m'ont aidé. Je crois qu'il y a eu, j'ai eu trois chances. La première, c'est que j'ai eu des parents qui s'aimaient, qui s'aiment toujours d'ailleurs, et ça m'a toujours montré une belle image du mariage. C'est important parce que, vous voyez, on ne rentre pas au séminaire parce qu'on a une image détestable du mariage. C'est pas par défaut, c'est pas par... Non, le mariage a toujours été pour moi quelque chose de beau à mes yeux. Hein. Première chose, et j'ai toujours apprécié que mes parents voyez, chez nous, c'était table ouverte. On pouvait inviter nos amis autant que vous, qu'on voulait, à déjeuner, à dîner, etc. On ne savait jamais très bien combien on serait à table. On était déjà une famille nombreuse. Mais... Et parce que mes parents avaient toujours à cœur d'offrir cette famille unie à d'autres qui n'en avaient pas la chance. Voyez. Et c'était quelque chose que mes amis aimaient beaucoup, y compris mes amis dont les parents étaient séparés ou à cause des événements de la vie n'avaient pas leurs deux parents, et qui aimaient venir se plonger dans ce bain familial sans aucun jugement, évidemment. Voyez. Mais pour eux, c'était aussi une... Là où moi, je râlais souvent contre mes parents, eux aimaient beaucoup mes parents et aimaient ces moments en famille. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est le groupe d'amis que j'ai eu, au lycée en particulier, et un peu en prépa ensuite. Un groupe d'amis vraiment super, garçons et filles, super, dont des filles qui ne m'ont pas laissé indifférent, dont certaines dont j'ai pu être amoureux. Mais on s'était dit entre nous qu'on ne voulait pas trop de petites histoires. Parce qu'on ne voulait pas que ce groupe d'amis soit abîmé par ces petites histoires quand elles cassent, etc. Vous voyez, quand tout le monde devient l'ex de tout le monde, ça commence à devenir compliqué, vous voyez, à partir en vacances ensemble, quoi. Et donc, on s'est un peu encouragé mutuellement, vous voyez, à passer ces années lycée vraiment dans des amitiés gratuites où on a pu aussi parler de tout ça, du coup, parce que comme c'était gratuit entre nous, ça nous rendait très libres de parler de tout ça, vous voyez, en toute gratuité, en toute liberté. Et on s'est beaucoup encouragé. Encore une fois, on adorait sortir, on adorait partir en soirée, on faisait plein de choses, mais il y avait une certaine clarté entre nous. Et puis enfin, moi j'ai grandi dans un milieu assez favorisé. Et dans ce milieu-là, dans ce genre de milieu-là que beaucoup d'entre vous connaissent, la barre est mise très haute dans tous les domaines. Il faut réussir culturellement, il faut réussir socialement, il faut réussir scolairement, il faut réussir spirituellement. On vous tire vers le haut, quoi. Et c'est une grande chance, hein. Vous allez pouvoir faire des belles études, vous allez pouvoir vous accomplir, vous allez pouvoir vous épanouir dans tous vos talents. Vous avez de la chance. Simplement, le risque, c'est quoi? C'est de grandir parfois avec la peur de décevoir. Avec la façade qu'on a appris à tenir, la façade est toujours brillante, elle est toujours belle, on sait faire ça. Mais parfois c'est plus dur derrière, quand on se plante, quand on est blessé, quand on est fragile, quand on n'y arrive pas. Vous voyez ? Le fossé entre ma fragilité et mon idéal est parfois douloureux. Et il est précieux dans ce cas-là de savoir avec qui on peut lâcher la façade de temps en temps, se laisser aider, se laisser encourager. Et moi j'ai rencontré en début de première un jeune prêtre qui m'a beaucoup marqué. Moi, j'étais à côté de Versailles, lui était à Paris, et j'ai pris l'habitude, une fois par mois, de prendre mon RER et d'aller le voir pour discuter une heure avec lui. C'est le premier prêtre avec qui j'ai réussi à faire une vraie confession, à tout lâcher. Et le fait que son regard ne change pas sur moi m'a complètement libéré. Et c'est un prêtre avec qui j'ai réussi vraiment à lâcher la façade et à jouer carte sur table. Ça a été, pour moi, tellement libérant. Et de pouvoir, du coup, parler de tout ça, y compris quand j'ai été amoureux, de pouvoir discerner, de pouvoir mûrir les choses, de pouvoir... Oui, approfondir et avoir ces critères de discernement qui m'ont permis de savoir prendre le temps. Et heureusement, j'en avais besoin aussi pour découvrir et approfondir ma vocation, voyez. Mais voilà les trois choses qui m'ont évité, je pense, de me blesser et en tout cas d'apprendre à faire des vrais choix. Voilà. Mon célibat aujourd'hui n'est pas une frustration, contrairement à ce qu'on pourrait... Enfin, à ce que le monde imagine parfois. Le grand renoncement, d'ailleurs, contrairement à ce que le monde imagine, c'est pas l'absence de vie sexuelle. Le grand renoncement, c'est ne pas donner la vie, ne pas avoir une famille, ne pas avoir un gamin entre mes bras qui serait le mien. Mais ce grand renoncement, qui est exigeant, est en même temps une joie profonde. Parce que il est au service d'une autre façon d'aimer. Le Seigneur, la vocation naturelle inscrite dans notre nature humaine, c'est le mariage. Et il n'y a que le Seigneur qui peut nous demander de renoncer à ça pour une vocation surnaturelle. Nous donner autrement. Si j'avais une femme et des enfants, c'est eux qui auraient la priorité dans mon cœur. Vos profs vous aiment beaucoup, mais ils préfèrent leurs enfants. Et c'est normal. Voyez, le prêtre choisit librement de ne pas s'attacher à sa femme, à des enfants qui seraient les siens, pour être radicalement est totalement disponible affectivement à ceux auxquels il est envoyé. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont la priorité dans mon cœur que vous. Vous êtes la raison d'être du célibat des prêtres, des consacrés, des moines et des moniales. Voyez, c'est ça qui est précieux. Et c'est pour ça que c'est pas une frustration. C'est que c'est au service d'une autre façon de me donner et d'aimer. Et je rejoins la question sur les personnes homosexuelles. Ces personnes-là, mais comme d'autres personnes, aujourd'hui, je ne sais plus le chiffre de ceux qui vivent un célibat, pas forcément choisi, voyez, auront d'une façon ou d'une autre à trouver une façon de se donner. Je vous donne un exemple. Ma marraine qui pour X raisons n'a pas pu se marier, a fait des études de médecine. Elle me dit aujourd'hui, elle a 70 ans, elle me dit aujourd'hui que ça reste une blessure de ne pas avoir pu se marier. Et on a tous nos blessures, hein. On porte tous nos blessures. Mais pour elle, ça reste un manque, évidemment, inscrit dans sa nature humaine. Elle était faite pour ça. Les événements de la vie ont fait que ça n'a pas été possible. Et pour autant, sa vie, elle ne l'a pas vécue pour elle-même. Elle a vraiment aimé et donné sa vie. Elle a été psychiatre, elle a fondé un centre pour adolescents en prévention du suicide, pour adolescents suicidaires. Elle a fondé un autre centre pour adolescents lourdement handicapés. Elle a fait un bien extraordinaire à tant et tant de patients. Elle a redonné la vie à son petit village d'Auvergne où elle s'était installée, qui aujourd'hui attire des familles entières qui viennent s'installer dans ce petit village qui retrouve une vie extraordinaire. Elle a retapé l'église romane de ce village. Enfin, elle a eu une fécondité extraordinaire. Voyez, la vie, elle est belle et elle est féconde dès lors qu'elle est donnée. Et c'est important pour tous ceux qui ne se marieront pas, pour X raisons, eh bien de savoir que leur vie peut quand même avoir une fécondité, qu'il faudra trouver une autre fécondité en donnant cette vie et en la mettant en service. Voilà, il y a plein d'autres questions, mais je vais m'arrêter là pour ne pas vous mettre en retard. Si vous avez d'autres questions, vous avez un aumônier, je crois, vous avez la chance d'avoir un aumônier, n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez la chance d'avoir dans vos paroisses des prêtres de tout style, de tout âge. Vous avez l'âge maintenant pour aller les voir. Si vraiment il y avait des questions absolument sur ce que j'ai dit, eh bien, vous me retrouvez facilement sur Facebook, vous pouvez me les poser. Je vous répondrai, je vous renverrai ensuite vers votre aumônier. En tout cas, n'hésitez pas aussi à acheter ce petit bouquin. Les droits d'auteur vont aux enfants des rues de Manille. C'est un de mes amis prêtres du séminaire qui a donné sa vie là-bas, au service des enfants des rues. Donc quand vous achetez un bouquin, vous faites une bonne action en plus. Ça vous permettra d'approfondir et puis de le prêter à un ami. N'hésitez pas, en tout cas, je prierai pour vous. Priez pour moi. Le petit bouquin s'appelle « Aimer en vérité ». Vous le trouvez facilement à la procure ou sur Amazon ou chez votre libraire préféré. Je prie pour vous. Soyez heureux. Merci. Et vous pouvez aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, retrouver cette conférence et plein d'autres ou des petites vidéos sur le site padreblog.fr ou sur la chaîne YouTube Padreblog. Vous verrez. C'est intéressant.